Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, Tim Dugas, c'est parti. 18h03, vous le savez, c'est le moment où nous allons débattre et parler football avec Jean-Louis Tour qui est parmi nous. Bonsoir mon Jean-Louis.
Bonsoir Dugas. Ça va,
passez un bon week-end mon poulet.
Ça va très bien, tout va bien.
Ça va toujours.
En famille.
Ça va, ça va ce régime, ça fonctionne ?
Ça descend doucement.
Tout doucement, pas assez vite apparemment.
Oh si ça va.
Si ça va, t'es confiant ?
On est sur 1 kilo par semaine, mais ça fait que 2 semaines.
Oui, donc t'es toujours à plus 8, quoi, si j'ai bien compris.
C'est ça.
C'est bien ça. Franck Leboeuf est avec nous également. Bonsoir, Francky.
Salut, Christophe.
Ça va, mon poulet ?
Salut, Jean-Louis. Ça va, super.
Francky, passez un bon week-end.
Merci. Ouais, génial. Bah, j'ai travaillé, j'ai regardé des matchs allemands, donc ça va, quoi.
D'accord,
ça a été.
C'est toujours aussi chiant, mais ça va, ça passe.
Ah,
moi, j'aime bien le faux. On avait un débat off où j'aime bien le faux son qu'on nous rajoute parce que je trouve que ça met un peu l'ambiance et ça permet de penser que les matchs sont des vrais matchs.
Ouais, c'est vrai que c'est pas.
Et moi, j'aime pas.
Et lui, n'aime
pas. C'est ça notre débat.
Ah oui, c'est vrai.
Bah, j'aime pas parce que c'est pas la vérité. En fait, c'est pas ce que vivent les joueurs à ce moment-là. Tu vois, alors, eux, ils jouent dans le silence. Moi, nous, on verrait un truc différent.
J'ai pris l'exemple des séries télévisées comme Friends où, par exemple, on nous rajoutait les rires. Ça dérangeait personne.
Ouais, mais tu vois, moi, je trouve que si on fait ça, après, on va mettre des fausses ambiances partout. Un match à Monaco où il n'y a pas beaucoup de spectateurs, on va mettre une fausse ambiance aussi.
Ouais.
Tu vois,
ouais.
Non, mais justement, on va accueillir pour ça un mec qui a l'habitude
des fausses ambiances,
des simulations, tout ce qui va avec. Eric Dimeco est avec nous. Bonsoir, Eric.
Salut, Dugas. Salut,
Eric. Ça te plaît, toi, ou pas, alors, ces simulations?
Mais on a déjà fait le débat, les gars.
Ah ouais?
Moi, je suis pour la simulation.
Hein.
Ouais. Je comprends. Surtout qu'il ne te reste plus que ça, quoi.
Écoute, et puis c'est surtout comme par tous bons amis, comment ça va? Et au moins, c'est bien.
Gentleman agreement.
Voilà, très bien.
Magnifique. Allez, mon Jean-Louis, tu nous envoies la sauce?
Bien sûr. Évidemment. Ami de la poésie, bienvenue dans Team Dugas. On est parti donc avec à 19h, donc la carrière de Nicolas Anelka. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des polémiques, des réussites, plein de choses à dire sur sa carrière. Donc ce sera tout à l'heure à 19h. À 18h30, tes chouchous du gars sont dans l'actualité. Balotelli et Ben Arfa ont-ils conscience du gâchis de leur carrière? Balotelli qui devrait résilier son contrat à Brescia en Italie. On vous raconte tout ça à 18h30 et vous pourrez réagir au 32-16. Avant de parler du PSG, Mohamed Bouassi nous rejoint. Bonsoir Mohamed.
Salut Jean-Louis, salut Dugas, salut Francky, salut Eric.
Et là le moment.
Tu vas pouvoir compléter avec tes infos, mais Dugas, je voulais quand même te faire réagir à un truc. C'est Niort qui a annoncé aujourd'hui le départ de Franck Passy.
J'ai vu ça.
Et le club qui indique qu'il va accompagner Laurent Blanc cet été pour un nouveau projet sportif ambitieux. Donc on ne sait pas forcément où il va aller. À moins que toi t'aies une info du gars.
Pas
je
du
ne sais
tout.
Pas.
Non, je n'ai aucune info. Je ne sais absolument rien. Mais bon, après, la vraie info, ça serait que Laurent ait enfin trouvé quelque chose qui lui plaît, parce que il cherche tous les 6 mois de toute façon. Donc c'est pas une surprise qu'il voulait à nouveau entraîner. S'il a trouvé quelque chose, écoute, je pense qu'on en serait tous ravis. On a envie de retrouver et de revoir Laurent Blanc entraîner. Il a fait ses preuves, il a montré de belles choses. Donc on a hâte que ça arrive.
Mohamed, on a des pistes.
Alors, en fait, la situation est plus compliquée que ça, messieurs, parce que Laurent Blanc...
Tu vas nous casser notre kiff.
Non, c'est en fait, Laurent Blanc s'est rapproché cet été depuis quelques semaines de Jorge Mendes, le super agent de Cristiano Ronaldo, voilà, pour essayer de trouver un projet, parce que c'est assez quand même déconcertant depuis quelques années de ne pas avoir aucune équipe qui s'intéresse à Laurent Blanc, en tout cas qui va au bout des choses, des discussions. Et Franck Passy a rencontré ces dernières semaines le président de Niort. Il voulait, Franck Passy, une option dans son contrat pour partir cet été au cas où Laurent Blanc trouve quelque chose. Le président de Niort n'a pas apprécié, il n'était pas très chaud. Les deux hommes ont préféré se mettre d'accord pour l'arrêt de leur collaboration. Mais en revanche, il y a eu une petite erreur, en tout cas c'est ce qu'on me dit à Niort, il y a eu une erreur dans la façon de communiquer du président de Niort. Laurent Blanc n'a pas, pour l'instant en tout cas, pas d'offre très concrète. Il n'a pas signé dans un club et ça ne veut pas dire que Franck Passy quitte Niort pour rejoindre Laurent Blanc dans un club. Ça veut dire qu'il est très attaché à Laurent Blanc et qu'il n'a pas envie de rester à Niort pour l'instant sans l'amitié qu'il a de Laurent Blanc.
Et ben voilà, c'était important de le préciser. Vous voulez ajouter un truc, Eric ou Franck?
Non, mais j'étais en train de chercher quels seraient les clubs capables de l'accueillir et quels seraient ceux qui seraient intéressants pour Laurent.
On parle de Newcastle qui a un projet intéressant.
Ouais.
Et puis j'ai lu quoi?
Ce sera anglais, plutôt anglais alors.
Non, non, je sais pas. Non, je te dis ce que j'ai vu.
Ce que t'as vu. On a pas vu Marseille après Villas-Boas.
Non.
Aurait pu.
Mais Newcastle sont en train de monter un gros projet là.
Faut qu'il y aille là, Lolo.
Bah oui, oui.
Là, on va entraîner. Ça
fait trop longtemps. Si Newcastle a l'autorisation d'être acheté, hein. C'est toujours pas fait. Hein.
Oui, non, mais ce que je te dis, ce que j'ai lu, je dis ce que j'ai lu.
Et oui, mais nous, on a un moment, on va plus loin là, tu vois.
Je suis revenu, donc voilà. Je suis en pleine forme en plus.
Ah là, le moment, il va nous en sortir, écoute-moi. Ouais.
Qu'est-ce qu'il a bronzé pendant le confinement, lui?
Et il est beau, hein.
Impressionnant.
Il est beau, ouais. Les cheveux ont poussé.
Forcément, il a un appartement à Paris avec une terrasse de 90 mètres carrés, voilà. Forcément.
Évidemment.
Complètement faux.
Alors, le PSG.
Plus un cabriolet, donc imagine s'il bronze le type.
Un cabriolet trottinette.
C'est ça, ouais.
Exactement. Alors, le PSG, aujourd'hui, l'Observatoire du football, le fameux CIES. Je sais que ça te plaît, du gars.
Ah, mais j'aime beaucoup.
Donc, l'Observatoire du foot a publié une étude qui te régale à chaque
avec
fois.
Avec ou sans algorithme?
Ah, je pense qu'il y a un algorithme derrière. Ouais, je pense. Okay. Grâce à cet algorithme, on peut définir la valeur des joueurs. Et donc, on apprend dans cette étude que Kylian Mbappé est le joueur au monde qui a la plus grande valeur marchande, autour de 260 millions d'euros.
C'est des génies. Voilà, rien que de trouver ça déjà, c'est des génies.
Bon, alors ça, ouais, on n'avait peut-être pas besoin d'eux, mais bon. Ouais. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que Neymar dégringole totalement.
C'est une pipe.
Sa valeur n'est plus que de 82 millions d'euros.
Il est nul.
Et au-delà, au-dessus de Neymar dans ce classement, il y a Marquinhos qui pourrait devenir peut-être le capitaine du PSG. On en reparlera, Mohamed, dans un instant. Mais est-ce que vous pensez que Marquinhos est plus important pour l'avenir du PSG que Neymar? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Duga.
Moi, j'ai envie de dire oui, parce que Marquinhos est déjà totalement investi. T'as besoin dans une équipe d'un très grand défenseur. Je pense qu'il fait partie des tout meilleurs. Il aime le club. Il s'investit dans le club. Il a un mental. Il a un caractère. Ce garçon est forcément plus important qu'un autre garçon. Alors, au talent, peut-être plus important, mais surtout qu'il n'a qu'une envie, c'est se barrer. Donc je préférerais toujours avoir dans mon équipe et faire confiance à mon équipe, faire confiance à un joueur qui a envie d'être dans mon équipe, qui est le leader, qui reprend le flambeau, qui est là, qui est déterminé, qui montre l'exemple. Enfin, voilà, qui est un vrai leader d'équipe plutôt qu'un joueur qui tous les ans, à la moindre opportunité, veut essayer d'aller voir ailleurs. Donc je trouve pas ça complètement illogique. Après, il y a quand même aussi une réalité économique, c'est que les gens paieront plus facilement leur place pour aller voir jouer Neymar que Marquinhos. Mais ça, après, c'est encore une autre façon de voir le football et l'économie du football. Mais c'est sûr que dans mon équipe, j'ai un Marquinhos en défense centrale. J'y vais tranquille, ça c'est sûr.
Francky, t'as dit normal aussi, toi, quand j'ai donné les
chiffres. Ouais, par rapport à la rentabilité de Marquinhos depuis qu'il est au PSG, en équipe nationale, et la dégringolade dont les algorithmes ont démontré que franchement, c'était vrai, parce que Neymar, ça fait quand même 2-3 ans que ça dégringole. On attend une réaction, on l'a très très peu, on l'a de temps en temps, mais très très peu. Je pense que Marquinhos, et tu signes aveuglément un nouveau contrat avec lui, parce que tu sais qu'il va faire le boulot. Neymar, tu sais pas ce qui va se passer. Entre les blessures, comme dit Christophe, sa non-envie de rester ou de repartir à Barcelone, il n'y a pas débat, quoi.
D'accord. C'est marrant que tu dis ça, et Duga était un peu d'accord avec toi, qu'il n'y ait même pas de débat. Je veux dire, on peut quand même se poser la question. Neymar, c'est quand même un talent, oui, c'est un joueur offensif, etc.
Parce que c'est vrai que le football, oui, mais en principe, il n'y a pas photo sur Neymar qui est de Barcelone. Mais si on parle de fiabilité, on parle de chiffres.
Pour vous, c'est qu'une question de blessure. C'est pas une question aussi de jeu, de.
Bon, non, puisque Mbappé, il joue dans la même équipe et il s'en sort très, très bien. Donc, c'est pas un obstacle. C'est pas parce que c'est un jeu défensif qu'on apprenait. Au contraire, c'est plutôt offensif. Sincèrement, Neymar en pleine forme, il y a 3 ans, il n'y a pas photo non plus. C'est oui. Neymar par rapport à Marquinhos. Mais là, à l'heure actuelle.
L'argument qu'on peut opposer, c'est l'âge aussi, évidemment. Hein, Mbappé a 21 ans, donc il est très jeune. Mais il y a des joueurs de l'âge de Neymar qui sont quand même bien plus hauts dans ce classement, comme Sadio Mané, comme Griezmann.
Werner, il doit monter aussi. Il a dû monter pas mal là, ces derniers temps, non? Tu l'as pas?
Si, il est égalité avec Marquinhos, figure-toi, à 90 millions. Eric, est-ce que pour toi Marquinhos est plus important que Neymar?
On a une vision tronquée de ce compliquer la réalité pour gagner une Ligue des Champions avec l'émergence de Messi et de Ronaldo. Et d'ailleurs, c'est l'erreur peut-être qu'a fait Paris en pensant qu'en prenant Neymar, tu gagnais la compétition. Et je crois que l'avènement de ces deux garçons, Messi et Ronaldo, nous a fait oublier qu'il faut avoir une équipe forte et notamment un socle fort pour aller gagner la Ligue des Champions. Parce qu'ils sont tellement forts qu'on a l'impression qu'ils vont la gagner seuls. Mais on oublie que Sergio Ramos, notamment, et notamment sur les finales, rappelez-vous quand même ce qu'il a fait ce garçon, que ce soit en bien devant ou en bien derrière quand il s'occupe de Salah sur la dernière qui gagne, ou un Casemiro, ou un Piqué, ou un Busquets, ou un Van Dijk, et les mecs qui sont au milieu du côté de Liverpool. Et c'est pour ça que moi je pense que, et c'est bien ce que fait Paris avec Marquinhos, parce que d'abord il est énorme, et puis regardez l'investissement. Moi j'ai souvenir, je crois que c'est le dernier match contre Dortmund au Parc où il n'y a personne. Oui. Donc un match très particulier hein, pour la motivation des joueurs. Putain, ce mec, il a un truc dans la manière d'haranguer ses partenaires. Tu fais,
c'est. Mais surtout que là, on l'a bien entendu, qu'il n'y avait personne.
Voilà, je parle de ce match-là parce que c'était vraiment particulier. Et tu vois les mecs qui ressortent dans la mentalité, dans la manière de. Voilà. Et ce mec, à ce niveau-là, est énorme. Et moi, je pense que Paris, s'ils veulent aller la chercher, cette compétition, c'est justement en s'appuyant sur des garçons comme ça. Alors, peut-être pas que Marquinhos, il faudra peut-être qu'au milieu de terrain, ils en aient un autre comme ça. Alors après, Mbappé, les machins, ils feront la différence devant. Mais je pense que tu vas la gagner. Cette compétition, tu la gagnes avec le Real. Le Real qui la gagne trois fois. Si tu te souviens des finales, moi j'ai souvenir de finales où Ronaldo il boude à la fête parce qu'il n'est pas très bon sur la finale. Où tu as le Sergio Ramos, donc, qui est toujours énorme, lui, sur ces matchs-là, il n'y a pas de souci, puisqu'il y en a où il t'a mis des buts qui te ramènent dans le match. Casemiro, Modric, Kroos au milieu, ils sont énormes. Donc ces postes-là qui ne sont pas mis souvent en avant et qui ont été peut-être oubliés parce que, oui, Messi et Ronaldo, on voit qu'eux sur le terrain. Mais on a oublié que derrière, ils avaient une machine de guerre aussi, tu vois. Et la machine de guerre, le problème, c'est que c'est ces mecs-là, c'est Marquinhos.
32-16, évidemment, pour réagir, on vous donne la parole. Marquinhos, futur capitaine du PSG, ça semble écrit, moi.
Oui, c'est écrit, puisqu'il est très apprécié par tous les dirigeants du club, mais il est surtout très apprécié en interne, dans le vestiaire. Il a mobilisé les joueurs avant le match face à Dortmund. C'est un capitaine, ou en tout cas un futur capitaine exemplaire. C'est un relais aussi entre Leonardo et le sportif. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les discussions qui ont été tenues sur la baisse des salaires. Leonardo était passé par Thiago Silva, ça n'a pas forcément bien marché. Il a essayé de passer par Marquinhos. Au moins, le message était passé avec les joueurs parisiens qui ont plus ou moins refusé. Mais il y avait des échanges. Donc il est très apprécié par le président Nasser Al-Khelaifi. Tout est fait pour qu'il soit un très bon capitaine.
On va revenir dans un instant sur les infos presse espagnole sur Neymar au Barça. Il a encore fait la une du Mundo Deportivo, mais juste avant.
Chaque année, on va reparler de ça.
Oui, Mohamed est là pour démentir.
Tu auras une barbe blanche et des cheveux blancs que tu vas encore parler, alors.
Non, mais en plus, il faut arrêter avec ça. C'est bon, le Barça, ils n'ont pas d'oseille. En plus, arrêtons de leur faire croire qu'ils peuvent acheter tout le monde. Si le Barça peut acheter aujourd'hui, avec la crise du Covid, les problèmes financiers qu'ils avaient.
Il n'y a plus que 80 millions, Neymar. On en parlera quand même, on va démentir tout ça. D'abord, je vais donner la parole à Jérôme, qui est là au 32-16, supporter du PSG. Salut Jérôme.
Salut Jérôme. Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue poulet.
Alors, tu préfères garder Marquinhos ou Neymar? En gros, lequel est le plus important des deux au PSG, si tu dois faire un choix?
Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup Marquinhos. Je trouve que c'est un très bon défenseur. Même si je pense qu'il est un poil surcoté, parce que des fois, il fait encore des petites erreurs, mais clairement, un très gros potentiel, encore jeune, il est à Paris depuis longtemps, etc. Ça sera un bon capitaine, mais par contre, on peut pas considérer qu'il soit plus important que Neymar, parce que Neymar, c'est le joueur le plus important du Paris Saint-Germain. Il est plus important que Marquinhos, mais il est plus important que Mbappé aussi, en termes de jeu, il est meilleur. En fait, c'est un des meilleurs joueurs du monde, et il est remplaçable, alors qu'un défenseur central, même si on perdait Marquinhos, qui va sûrement pas arriver, on pourrait le remplacer plus facilement que Neymar, en fait.
Mmh. Non, oui. Du coup, tu me disais que les défenseurs, ça servait pas à grand chose.
Ouais, en plus, c'est
des attaquants frustrés, on le sait. Je sais plus le prénom de notre auditeur. Regarde.
Gentil avec Jérôme.
Non, mais je suis gentil avec Jérôme. Non, mais je lui donne un exemple qui est significatif ces derniers temps. Liverpool, qui était une équipe qui progressait, qui on sentait qu'il devenait très fort, mais il y a eu un joueur qui leur fait passer le cap. C'est quand ils prennent Van Dijk. Rappelez-vous quand même, sans Van Dijk, ce qui se passe avant à Liverpool avec la défense, c'est quand il y avait Lovren, avec qui avait d'autres derrière là. Il y avait
Gomez, Matip.
Non, il y avait l'autre aussi là.
Matip, Gomez.
Ouais, puis il y en avait.
Lovren.
Mamadou Sakho, il y a eu pendant un temps aussi.
Ouais, je cherche, attends.
C'est pas un Clavan là, un truc comme ça là, il y a pas
Clavan,
un...
oui, bien sûr.
Oui, voilà, voilà. Parce que moi, je l'ai vu jouer, moi, avec. Je l'ai vu jouer, lui, en défense centrale, que même à 60 ans, je peux faire. Parce que. Donc, et Van Dijk, il te rend l'équipe énorme. Et pourtant, ils n'ont pas de stars devant.
Je pense
ils n'ont pas de stars, mais bon.
Je peux comprendre.
Non, mais il n'y a pas de stars. Ils sont devenus stars. Ils sont devenus
trois attaquants de merde.
Non.
Des défenseurs.
Je suis désolé. Il y a 5 ans.
Ils n'ont pas de diva, mais ils ont des stars.
Il y a 5 ans. Mané. Il y a 5 ans. Mané. Regarde où il était. Regarde où était Firmino et 5 ans. C'est Liverpool qui les font devenir très grands.
Ah, mais c'est incroyable d'entendre des choses pareilles sur une grande radio locale. C'est fou, ce mec.
Non, mais les trois sont des défenseurs frustrés, en fait.
Mais oui. Non, mais tu as vu. D'ailleurs, tu as vu comment ils travaillent les.
Mais bien sûr. Ils auraient adoré.
Et Firmino, comment il est énorme.
Non, mais
tout ça grâce à Van Dijk.
Je pense que Jérôme, on comprend ce que veut dire.
Ah ben c'est
Jérôme.
Lui qui les fait passer. Lui et le gardien. Il les fait passer dans une autre dimension.
On comprend ce
les
que
autres,
veut dire.
Les autres, ils étaient là avant.
On comprend ce que veut dire Jérôme. C'est vrai qu'un Neymar en pleine forme, il fait partie des trois meilleurs joueurs au monde. Enfin, des trois joueurs que tu viens voir. Tu payes ta place pour aller voir Neymar.
C'est quand là, on avait un nouveau jingle.
Ouais. Merci. Mais par contre, il était un peu court celui-là.
Bon, ben on va le trafiquer.
Ouais, merci. Mais sincèrement, à l'heure actuelle et par rapport à ce qu'on a vu sur les trois dernières années, tu ne peux pas, je pense, dire que la rentabilité de Neymar est plus importante que celle de Marquinhos et ça le rend plus important que Marquinhos.
Rentabilité sportive. Mais on est d'accord.
Oui,
parce qu'après, économiquement.
Économiquement,
quand même,
mais bien sûr, qu'Neymar, il vit sur son passé. Et Jérôme le note sur son passé, sur le présent.
Moi, je on peut donner la parole à Jérôme ou à Vézi Dugas et on lui redonne la parole.
Non, non, je trouve la chose la plus intéressante dans ce sondage-là, c'est que les joueurs qui jouent pas ou pas assez ou sont blessés, ils perdent forcément de leur valeur. Et ça aussi, c'est intéressant dans une carrière. On parle toujours du talent du joueur. Mais le joueur qui est fiable, qui se blesse jamais, ça vaut quelque chose. Ça vaut de l'oseille. Ça vaut très, très cher, quoi. Ça, c'est important. Un entraîneur.
C'est 50 matchs par an.
Oui, c'est pas du tout. Je préfère un mec solide qui me fait 50 matchs qu'un génie qui m'en fait que 10.
Mais les supporters, c'est pas ça.
Dugas, tu sais pourquoi? Parce que c'est un centre, même si parfois ce centre on le critique, etc., il faut pas oublier que c'est un centre d'intelligence économique et sportive qui travaille sur les salaires aussi.
Compris.
Non, mais c'est que, en fait, Dugas, c'était pour aller dans le sens.
Quoi.
C'est un truc sérieux qui travaille aussi sur les salaires. Et quand t'as un Neymar qui joue, qui rate les grands matchs, qui est souvent blessé et qui a un énorme salaire, alors que Marquinhos gagne 2 à 3 fois moins que lui et que lui est toujours disponible et qu'il a une valeur marchande et qu'il a une cote qui reste assez importante et qu'il est toujours titulaire dans les grands matchs et qu'il est toujours bon, et bien c'est sûr que la cote de Marquinhos est toujours aussi importante. Et d'ailleurs, Marquinhos, chaque été, il a les plus grands clubs européens qui veulent le recruter. On parle du Barça ou on parle des clubs anglais.
C'est simple, si tu perds Marquinhos, parce que notre auditeur dit tu perds Marquinhos, tu le remplaces, qui tu prends? Voilà, dis-moi qui tu prends.
Jérôme, on va lui redonner la parole.
Koulibaly peut-être.
Allô?
Oui, Jérôme.
Oui, qui tu prends? Voilà, qui tu prends pour être performant derrière, super Marquinhos?
Ça, j'y ai pas pensé. Un joueur, oui, d'accord, mais exact. Mais ce que je voulais dire, c'est que comme vous disiez, Neymar, il a pas été assez présent physiquement les deux dernières années. Mais bon, cette année, ça se passait bien. Ça se passait bien jusqu'à la coupure du Covid.
Il a pas de cul. Les deux années, il a pas été là. Et là, il a le Covid. C'est ce chat noir, celui-là.
Et il nous a quand même fait passer les huitièmes. Ouais, c'est tout ce que je demandais.
Voilà,
c'est tout ce que je demandais parce que c'est quelqu'un qui.
Merci, Jérôme.
Mais t'as raison, voilà. Jérôme. T'as raison.
À bientôt, Jérôme. Tu vas rester.
C'est à cause de personnes comme Dugas, en fait, que les défenseurs ne sont pas valorisés.
Non. C'est à cause de Dugas.
Regarde. Non, mais regarde. Regarde les problèmes de Manchester United avec les économie qu'ils ont pour trouver des bonnes défenseurs centraux.
Et voilà.
Regarde les problèmes, alors, même du Barça quand...
Est-ce que vous êtes capable de trouver le top 5 de notre fameuse étude là? Ok, on a dit Mbappé déjà.
Bah, Ronaldo, Messi.
Non, aucun des deux.
Bah non, Ronaldo, non, il a ça.
Ah oui, parce qu'il est
dans le quand même. Non, mais il doit y avoir
Sancho, il doit y avoir.
Oui, Sancho, exactement.
Le petit Sancho.
Sancho, Van Dijk.
Non, l'attaquant là aussi.
L'attaquant là aussi. Là.
Haaland,
il n'y est pas, non.
Ah bon?
Non. Donc c'est bon. Regardez en première ligue. Hein.
En première ligue.
Gnabry, non?
Non.
Ah non, comment il s'appelle Tottenham devant.
Première ligue.
Tottenham devant, mais enfin qui?
Tottenham devant.
Ça,
c'est Harry Kane.
Harry Kane.
Non.
Il est pas non plus.
Non. Bon, vous êtes nuls. Donc il y a Raheem Sterling en deuxième.
Ah oui, Sterling. Ouais. Sterling.
Alexander Arnold en quatrième. Ouais, bien, donc Jadon bien. Sancho, ah, bravo, on en a parlé. Ouais. Et Marcus Rashford en cinquième.
Non, non. Bon,
allez, okay, oui, mais après, c'est toujours pas les arguments. C'est par rapport à son âge.
Oui, exactement.
Qui lui reste comme un contrat.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Raccroche.
Et oui, les gars.
Mais bien sûr, il y a une
valeur. Un mec qui reste en fin de contrat, sa valeur, c'est zéro, les gars.
Oui, non, mais très bien.
Après, à part Rashford, les quatre dans le classement sont plutôt des gens qui méritent d'y être.
Et un gars comme Ziyech, il y est pas mais comme
il est beaucoup plus jeune.
Alors Ziyech,
il a 26
Ziyech, il est pas dans mon classement . Et je peux vous dire qu'on va jusqu'au 40 là.
Ah bon?
Donc, ouais. Non, il y est pas. H. Bon voilà,
problème, parce qu'il est pas parti de l'Ajax.
Mundo Deportivo
et si, donc, il est à Chelsea là.
Oui, là
27 ans.
Est-ce qu'il y a Mitroglou?
Je cherche, mais j'ai pas assez de feuilles là pour arriver au bout de la liste. Donc Mohamed, Mundo Deportivo ce matin, le journal catalan qui met en une, Neymar a dit à ses partenaires qu'il allait au Barça et qu'il voulait finir la Ligue des Champions à Paris.
Ah d'accord, donc ils l'ont dit aussi la semaine dernière, ils l'ont dit il y a deux semaines, ils l'ont dit il y a trois semaines
aussi,
ils l'ont dit l'année dernière, ils l'ont dit il y a deux ans aussi. Au PSG on dit que c'est complètement bidon comme chaque été, et que voilà, que c'est ridicule, et que Neymar est plutôt dans de bonnes conditions en ce moment, qu'il est, les échanges sont plutôt cordiaux avec Paris, qu'il y a, voilà, il y a une réflexion aussi. Lui, il se sent beaucoup mieux à Paris. C'était notamment le cas avant le match retour face à Dortmund, et qu'il n'est pas du tout dans l'optique de partir. Voilà. C'est une télé-novella.
Pourquoi tu te marres?
Mais c'est un feuilleton.
Je suis ravi qu'il aille beaucoup mieux, qu'il se sente très très bien.
Bah, il était pas contre Dortmund, du gars.
Non mais ce que je trouve assez marrant.
On va pas rappeler le salaire.
C'est qu'un média comme ça de catalan. T'as l'impression que le Barça n'a jamais aucun souci. Ils peuvent acheter les joueurs quand ils veulent, des millions et des centaines de millions, mais au bout d'un moment, arrêtons de faire croire aux supporters qu'ils peuvent acheter qui ils veulent. C'est
faux. Tu peux pas lutter face à ça. C'est incroyable. La patience des supporters j'ai envie de dire, l'aveuglement ou les pertes de mémoire des supporters du Barça ou du Real. C'est-à-dire que ces journaux-là.
Tu y crois, toi?
Non, mais ces journaux-là, Eric, Dugas, Francky, ils mettent le lundi, le joueur signe demain, le mercredi, ils disent, un autre joueur signera, et les supporters ne disent rien. Les supporters espagnols ne disent rien. Marquinhos, il avait signé au Barça. Verratti, il avait signé au Barça.
Mais même moi, quand j'étais au Barça, déjà.
Ils ont annoncé que tu signais au Barça, tellement qu'ils
étaient déjà n'importe quoi. Ils annonçaient ma prolongation. Ouais. Et voilà.
Bon, on en reste là. Merci Mohamed.
Merci messieurs.
Pour toutes ces précieuses infos. Dans un instant, les chouchoutes du gars. Balotelli, Ben Arfa ont-ils conscience du gâchis de leur carrière? 32-16 pour en débattre. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, Eric Dimeco, Franck Leboeuf, Jean-Louis Tour sont bien dans Tim Dugas jusqu'à 20h sur RMC. Bon Jean-Louis, ça va être le moment de parler de
tes chouchous.
De mes chouchous.
Balotelli, Ben Arfa.
Je suis ravi.
Franchement, ça aurait été dommage d'arrêter Tim Dugas sans reparler d'eux.
Bien évidemment.
On fait ça après le programme du journal moyen. Adrien Aigouin est avec nous. Salut Adrien.
Salut les copains. Lionel Charbonnier dans l'after. Il est dans l'after, Lionel, le week-end. Failli nous faire ce qu'on appelle dans le métier une Franck Leboeuf. Il a failli. C'est pas facile, hein.
Il y a 10 minutes, je vais t'en faire une autre.
C'est vrai?
Presque. Mais un peu courte, un peu trop courte.
Il s'est rattrapé.
La trafic un peu
courte.
On va quand même réécouter tout ça.
Non, mais vas-y, de toute façon.
D'un petit rien, on peut faire beaucoup, vous savez.
Oh, je sais.
Non, mais Lionel, voilà, tenter de faire une Franck, c'est pas facile, il n'a pas réussi.
C'est un métier, monsieur.
C'est un métier. Il n'est pas encore à ton niveau, Francky.
À tout à l'heure, Adrien, pour entendre ça. Alors, on voulait vous faire réagir, messieurs, donc, à l'actualité de ces deux joueurs, Balotelli, Ben Arfa. Ont-ils conscience du gâchis de leur carrière? 32-16, venez débattre. Balotelli d'abord. Donc, selon la Gazzetta, le journal italien, le président de Brescia aurait lancé une procédure pour rupture à l'amiable de son contrat. Il aurait séché les entraînements sur Zoom pendant le confinement. Et en gros, il lui reproche un manque d'implication quotidien.
Traduis-moi, ça veut dire quoi? Il a séché les entraînements sur Zoom, ça veut dire quoi ça?
Bah, il y avait entraînement tous les jours, tu vois. T'as rien fait sur Zoom, toi, pour le confinement?
T'as pas Zoom?
Ça veut dire quoi?
Bah, en gros, t'es sur ton téléphone.
C'est une application.
Pour te filmer.
Jitsi Meet, Zoom.
T'as pas fait des appels au Zoom?
Arrête,
avec tes potes de 98.
Donc les mecs se sont entraînés avec un Zoom, c'est ça?
Mais non, c'est parce qu'il y avait le coach il faisait
va le voir mon Zoom à moi, tu vois, ça va te faire drôle. T'auras pas besoin de Zoom pour le coup, je te le dis de suite.
Il est fou.
Ça vient d'Antoine Barnier, ça.
On dit pas non au Zoom parfois quand même. Non, en fait, c'est juste une appli. Tu mets ton téléphone en vidéo et comme ça, l'entraîneur voit que tous les joueurs sont en train de s'entraîner.
Et lui, il disait qu'il avait mal à la tête.
C'est Love Story, c'est Big Brother.
Ou l'estomac.
Oui, bah c'est juste une caméra, comme vous en. Vous servez tous de la caméra de votre téléphone.
Allez, vas-y, continue, vas-y.
Voilà.
Okay.
Ouais, Donc voilà.
Je vais essayer ça avec maman ce soir. Allez, c'est bon.
Très bien, on l'appelle maman, elle sera ravie.
Ah ben, par contre, dis-nous, hein, on veut voir ça. Hein, parce que,
bon, bah, peut-être
qu'on va apprendre des trucs. Bon, ça va
non, rien d'extraordinaire. T'emballe pas.
Alors, donc ça, c'est pour Balotelli.
Soyez à l'heure, par contre. Ça dure pas longtemps.
Ah, oui, le problème, c'est que là, si tu rates l'heure, tu rates le match.
Je suis content de votre décryptage de l'info Balotelli. On enchaîne avec Ben Arfa. Donc, Ben Arfa qui a repris l'entraînement avec Valladolid. Voilà, c'était surtout vendredi que ça s'est accéléré. Ouais. Ils affronteront Leganés samedi prochain. Et il y a un journaliste suiveur de Valladolid qui, il y a quelques jours, donc, a annoncé que Ben Arfa ne resterait pas à Valladolid. Le club comptait pas sur lui. Il est hors de forme. Ils savent pas combien de temps ça va prendre pour qu'il retrouve une condition physique.
Ah, jamais.
Le club n'est plus intéressé. Hein. Le conserver, ça revient à offrir encore 500 000 de salaire. Donc, c'est compliqué. Ses agents cherchent.
Par quoi?
500 000 euros de salaire. Par an.
On rappelle que le président, c'est Ronaldo.
C'est Ronaldo, oui.
On rappelle quand même le président.
Il dit quand même, le journaliste, il s'est bien adapté. Tout le monde s'entend bien avec lui.
Oh, c'est un bon garçon.
Pour la lutte contre le coronavirus, il est allé fabriquer des masques avec des partenaires. Donc, il n'y a aucun problème.
Il n'a pas rien fait, il a fait atelier couture. Hein.
Voilà. Mais bon, Valladolid veut recruter des jeunes ou promouvoir son centre de formation. Donc, voilà. Est-ce qu'ils ont conscience du gâchis de leur carrière, ces deux-là? Est-ce qu'à un moment, t'en prends conscience quand t'es joueur?
Je sais pas, écoute.
Quand t'arrêtes, peut-être.
Non, mais je crois que pour prendre conscience des choses, alors j'ai pas envie de dire que c'est des garçons qui sont pas intelligents, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut être capable de faire une analyse, avoir une réflexion, une introspection, je sais pas, un peu de recul, un peu d'analyse sur ce qui se passe autour. J'ai pas l'impression, sincèrement, vu les déclarations, les actes de l'un et de l'autre, lorsqu'ils jouent ou lorsqu'ils jouent pas, certains comportements, on est en droit de se poser la question, est-ce que ces garçons amènent une réflexion dans leur vie, dans leur quotidien? J'ai le souvenir là qui me revient comme un boomerang, c'est comme Payet. Tu peux te poser la question à un moment ou à l'autre, quand tu fais sa déclaration, je dois payer j'ai des taxes à payer ou j'ai des crédits,
à rembourser, une famille à mettre à l'abri.
Tu te dis, à bout d'un moment, est-ce qu'avant de parler, il agit? Il réfléchit, pardon. Et c'est pareil pour ces joueurs-là. Tu te dis, est-ce qu'avant d'agir ou avant de parler, ils réfléchissent? J'ai pas l'impression. Et je pense que pour être lucide sur sa carrière et sur les erreurs peut-être qui ont été commises, il faut être capable de réfléchir. Mais ils nous ont quand même montré tout au long de leur carrière que la réflexion, il n'y avait pas beaucoup. Donc, voilà, ils sont capables sur le terrain, une fois qu'ils ont le ballon dans les pieds, de faire des trucs extraordinaires par moment. Très rarement, beaucoup trop rarement pour moi, pour être considéré comme des joueurs, des grands joueurs. Mais oui, ça manque de. On peut pas s'imaginer que ces garçons ont suffisamment de lumière pour être lucides sur ce qu'ils ont fait. C'est pas possible.
Mmh. C'est un problème parce que et après la vie de footballeur, il y a une vie d'homme. Donc comment tu vas gérer ta vie d'homme? Est-ce que tu vas en faire? Je pense que ça met un terme et une conclusion à ce que souvent répète Roland Courbis, c'est que quand on balance, il avait tout pour réussir. Bah, ces deux-là viennent de prouver que non, quoi. C'est-à-dire que quand t'as pas le cœur ou la tête, bah, ça devient compliqué de réussir au football, quoi. Et il faut une réflexion, il faut une envie.
C'est sportivement, quoi, sur le talent, c'est ça, sur c'est... le
ouais,
la technique.
Ouais. Mais ça fait pas, il y a pas que ça. Parce que quand tu vois que Ronaldo et Messi, ils travaillent tous les jours, ils pensent qu'à ça. Chez Schneider qui a balancé ça l'autre fois, qu'il aurait pu être Ronaldo et Messi, ouais. Mais il avait pas envie parce qu'il aimait bien boire un coup. Non, t'es pas Ronaldo et Messi, c'est tout. Et eux, malheureusement, ils en sont alors très très loin parce qu'ils ont pas compris ce que c'était qu'être professionnel.
Oui, oui. Alors qu'en plus, ils sont. Enfin, je veux dire, Balotelli, il a que 29 ans.
Ils sont sympas en plus. Ah, bah, peut-être toujours quelqu'un qui dit c'est des bons garçons.
Oui, c'est vrai.
Ils sont peut-être des gens sympas. Hein, rien à voir. Hein.
C'est sûr.
Bon, ils ont du mal avec le haut niveau, mais bon. Ben Arfa, c'est 33 ans. Eric.
Ouais, bah écoute, c'est. Tu sais. On fait un métier formidable. On peut gagner beaucoup d'argent en s'amusant, en prenant beaucoup de plaisir pendant toute une carrière, en rencontrant des gens merveilleux, en jouant dans des pays où on apprend plein de choses aussi. Et il y a des mecs qui... Et puis en gagnant des titres aussi, parce que le but quand tu fais ce sport-là, malgré tout, c'est un métier, mais le but du... Enfin, moi, je l'ai toujours pris comme ça, c'est essayer de gagner des titres. Moi, je pars du principe que quand tu gagnes des titres, derrière, naturellement, tu vas gagner de l'argent. gens, quoi, parce que ça veut dire que tu es performant. Donc ça découle, tu vois, c'est l'inverse n'est pas vrai, mais dans ce sens-là, je pense que c'est plus vrai, quoi. Tu vois, tu peux gagner beaucoup d'argent et jamais gagner le titre, mais l'inverse c'est obligatoire. Et donc du coup, je me dis faire ce métier-là en le faisant comme ça. Alors moi, je mettrais pas les deux dans le même parce que le petit Ben Arfa, que je sache, il est pas bringueur, il fait pas des conneries.
Il a l'air moins falabrac. Il a l'air moins falabrac. Ouais.
Voilà, tu vois, moi j'ai du mal à mettre les deux dans la même. Tu vois.
C'est vrai.
Il a fait des choix de carrière, peut-être, et il a peut-être une mentalité particulière, mais j'ai pas l'impression qu'il. Qui soit au point de Balotelli, qui faisait n'importe quoi, voilà, et qui même pour moi était surcoté à un long moment. Donc, mais après, tu sais, si le mec, quand il finit sa carrière, il a pas de regrets. Ouais. Et qu'il se dit, tu sais, qu'il y en a plein comme ça qui disent, bah, bon, je suis putain, genre, j'ai plein d'argent. Si ça suffit à son bonheur, et que derrière, il pense qu'il est accompli en tant qu'homme, et que derrière, il rebondira, parce que.
Leur vie va être quand même beaucoup moins passionnante après, quand même, il faut qu'il le sache.
Ben oui, non, mais voilà, non, mais c'est ça le problème, c'est que, est-ce que, je sais, moi, je peux pas juger ça, parce que si le mec est heureux en faisant cette carrière-là, et en derrière, en passant à autre chose, sûrement, parce que quand tu fais ce métier-là comme ça, un Balotelli, par exemple,
tu peux être très heureux. Tu peux être très heureux en ayant quand même un recul sur ta carrière et te dire bon, j'ai déconné. C'est ça,
non, mais regarde, l'un n'empêche pas l'autre. On va pas, je veux pas parler de toi, je te mets pas dans la même catégorie en parlant de toi, du gars. Loin de moi. Mais souvent, tu nous dis oh, j'ai été coach, j'aurais dû faire ci, ou j'aurais dû faire ça. Alors que je te connais, tu étais sérieux et tout. Tu voulais peut-être pas te faire mal au point d'un Ronaldo, par exemple, mais voilà, ok. Mais derrière, tu as une réussite professionnelle qui fait que ta vie est remplie. Ouais. Tu vois, est-ce que quand tu es ballon Balotelli, par exemple, qui veut devenir entraîneur demain, par exemple, j'ai dit, dis-moi, tu vas t'arrêter un peu. Tu vois,
c'est. Ouais, mais ça sera toujours moins passionnant. C'est le plus beau métier du monde, le footballeur.
Est-ce que sa vie sera remplie derrière? Est-ce qu'il aura des regrets? Je sais pas. Et qui je suis pour le juger aujourd'hui? J'espère qu'il en aura pas, parce que c'est la pire des choses de finir ce métier-là qui est merveilleux en ayant des regrets.
Alors, c'est peut-être un autre débat, hein, mais Eric, tu as dit, on s'amuse beaucoup. Et moi j'ai une question par rapport à ça, par rapport à l'exemple qu'on donne. Moi je pense que on s'amuse quand on gagne, mais je pense que le métier de footballeur c'est pas que ça. Et quand on parle de privilégiés, moi je me bats contre ça, parce que je pense qu'on n'est pas des privilégiés. On a des privilèges parce qu'on les a acquis, parce qu'on les a gagnés. Mais s'amuser, c'est pas le but du football. Le but du football c'est quand même nous, c'est quand même un métier, c'est notre profession. On n'est pas là pour.
Alors moi, Frankie,
je me suis amusé à gagner.
Si. Ah non, ben j'ai pas gagné tout le temps.
Oui, mais tous les matchs,
ça. Le plaisir vient-il forcément dans la gagne
Le plaisir et l'amusement, c'est pas pareil. Moi, j'ai toujours eu confiance pendant 18 ans que j'avais une chance pas possible de me lever tous les matins pour aller faire du sport et jouer au ballon avec mes copains. Et j'ai pris du plaisir jusqu'au dernier jour. Et pourtant, les deux dernières années, j'étais blessé.
Et toi,
oui, je m'amusais.
Tu as pris du plaisir à travailler dur.
Ah non, mais à l'entraînement, mon plaisir, c'était aussi. Bah, on a joué ensemble, vous me connaissez.
Tu confonds plaisir et amusement, Eric.
C'était d'être avec des potes, de jouer, de chambrer, de m'amuser. C'était voilà. Après, que tu sois.
Oui, donc, non, mais c'est pas. Vous n'arrêtez pas de dire plaisir, le mot plaisir. Le plaisir, on a le plaisir de travailler, mais c'est pas forcément dans l'amusement. L'amusement, c'est déconner. C'est autre chose.
Oui, mais
tu peux prendre du plaisir dans le sérieux.
Mais
la définition de plaisir et d'amusement.
Tu es sérieux. Tu as un objectif dans la semaine, c'est le match. Ouais. Tu fais tout pour être bon sur ce match-là. Tu es sérieux pour ce match-là. Mais après, s'il y a vécu dans des groupes, on déconne, on s'amuse, on fait des jeux où on s'en fout de la tactique. C'est ça le métier de footballeur.
Mais on a la vie du gars quand même là-dessus. T'as joué au foot ou t'as travaillé?
Non, j'ai joué au foot, je me suis amusé. Mais ce que j'adorais, c'est être avec les copains. Moi, je suis un des rares joueurs qui adorait partir faire des mises au vert, jouer aux cartes avec les copains, les pétanques. Voilà, j'ai des souvenirs, que ce soit à Bordeaux ou même mon passage à Marseille, quand on a une autre équipe là où on finit deuxième derrière Bordeux, on avait une super équipe. C'était super bien. Voilà, je me souviendrai de ça toute ma vie. Ouais,
mais Francis te dit que c'est parce qu'il y avait les résultats qui allaient avec.
Oui, ben forcément, l'ambiance est toujours moins bonne de toute façon quand t'as pas de résultats. Donc l'un va avec l'autre en général. Mais
Peut-être qu'après, que... j'ai pas mais suffisamment alors, pris de plaisir aussi parce que c'est un métier tellement extraordinaire.
Vous deux, je vous comprends. Donc à la limite, non, plutôt la parole à Francky. Tu te retrouves pas du tout dans ce qu'ils décrivent là ?
Non, c'est-à-dire que je fais une dissociation complète entre l'amusement, c'est-à-dire quand tu gagnes des matchs, tu es content de retrouver, le lendemain, tu es au décrassage, on déconne, on rigole, oui, mais parce que tu l'as mérité, parce que tu as gagné. Mais moi, quand je perdais le samedi ou le mardi, j'avais pas du tout envie de rigoler, ça me foutait des glandasses.
Oui, la pétanque de Dugat, on voulait pas.
Mais non, mais bien sûr. Et en plus, ces deux joueurs qui sont mes collègues de travail ont eu la chance de vivre des grands moments dans des grands clubs où ils ont joué les premières places. Quelqu'un qui joue la 18e, 19e, 20e.
Ah, ben alors, je vais te raconter une histoire.
Il va pas rigoler, quoi, tous les jours.
Je vais te raconter une histoire.
On finira sur cette histoire.
Quand je suis prêté à Nancy l'année où Yarsène, on descend cette année-là.
Ouais, je sais, ouais.
Eh ben, il y avait une ambiance, écoute-moi. Moi, je me suis régalé. Après les matchs, on allait toujours tous manger ensemble. Voilà, Arsène, c'est un entraîneur.
Une bonne ambiance, si vous êtes descendu, vous allez être sacrément
nul. On était nuls. Équipe jeune aussi, qui a payé cher pour apprendre. Mais Arsène, aller à l'entraînement avec Arsène, c'était un plaisir. Tous les jours, ça changeait et tout. C'était, voilà. Et donc, parce que si tu pars par là, Francky, par an, il n'y en a que 20 qui se régalent. Hein, parce qu'il n'y en a que 20 qui gagnent le titre de champion ou la coupe. C'est-à-dire que les autres, ils ne s'amusent pas. Alors que tu as des mecs qui font des carrières, même en Ligue 2, pendant machin, ils sont conscients, ils s'amusent, ils prennent un pied pas possible. Tu es payé pour jouer au foot, pour courir avec des copains tous les matins de 20 ans.
Non, mais c'est intéressant de confronter vos ressentis comme ça, de voir que les gens vivent les choses différemment.
Ouais, mais je ne veux pas envoyer un faux message
trop tard.
À des jeunes, trop tard. Ouais, trop tard.
Bon, voilà. Dans un instant, c'est le journal moyen. Avec que des vrais messages, à tout de suite. Alors j'ai pas eu le temps d'en parler, mais Dugat ira voir sur rmcsport.fr. On a fait un papier grâce à Nicolas Paolorsi, le plan de Bordeaux pour le mercato. Je voulais quand même te détailler tout
d'accord,
ça.
D'accord, ils ont engagé Copperfield, ils ont engagé un magicien.
Donc ils veulent un attaquant et un milieu en priorité. Voilà. Bon, ils savent pas avec quel argent, mais voilà, ils veulent quand même ça.
Et ils savent pas quel attaquant et quel milieu.
Ils ont les profils, hein, mais bon, voilà. Au milieu, c'est genre Nampalis Mendy, tu vois. Milieu de terrain, expérimenté, l'ancien de Nice, là, qui est parti en Angleterre.
Mais le problème, c'est qu'il peut pas l'acheter. Et puis l'autre.
Voilà, exactement. Et l'autre, c'est Mehdi Taremi, donc un joueur un Iranien qui joue au Portugal. Plus grand, costaud, mais bon, le club portugais demande trop d'argent.
Donc ils ont pas le sous pour l'acheter non plus. Donc ils veulent deux profils, mais ils ont pas les sous.
Mais ils vont quand même essayer de dégraisser. Ils vont prolonger de Préville. Et les joueurs un peu bankable, c'est Camano et Sabali qu'il va falloir vendre. Voilà. Et puis plein de jeunes.
Parce qu'ils n'ont pas d'argent. L'avenir du club repose sur Camano et Sabali. Sur
les ventes de Camano et Sabali. Voilà. Ils veulent se débarrasser de Punjé Bay aussi.
RMC, 18h20.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez, Tim Dugas continue, les amis, avec Eric Dimeco, Franck Leboeuf et Jean-Louis Tour. À partir de 19h, nous allons revenir sur la carrière de Nicolas Anelka.
Exactement, il y aura plein de choses à dire et vous pourrez réagir également au 32-16. Tout de suite, c'est le journal moyen. Adrien.
À la une du journal moyen de Tim Dugas aujourd'hui sur RMC. Petit problème technique dans l'after pour Lionel Charbonnier au tout début d'émission. Ça arrive, parfois tout n'est pas en place. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui va très très bien dans la vie. Il y a des gens qui vont bien, lui il va très très bien. Et puis Tim Dugas va analyser la com de deux joueurs de foot de Ligue 1, deux communications différentes. Vous êtes des spécialistes de la com et du foot. Dugas. On va profiter de votre expertise. Dugas, ouais. Alors j'ai réécouté effectivement au début de l'émission Franck Leboeuf. C'est ce qu'on appelle être véritablement sur un fil, effectivement.
C'est vrai qu'un Neymar en pleine forme, il fait partie des trois meilleurs joueurs au monde. Enfin, des trois joueurs que tu viens voir.
Ah, elle est pas mal, quand même.
Ouais, on est sur un fil.
Ah, oui. On est bien.
On perd l'équilibre, mais on tombe pas du fil.
J'ai fait mieux.
C'est marrant comment c'est plus fort ça, isolé.
C'est toujours plus fort isolé. C'est le 333e journal moyen de l'histoire de Tim Dugas.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
Et on débute avec un point after, s'il vous plaît.
Vas-y, je te laisse, fini.
Non, mais attends, tu veux que je te dise, là, pour la première fois en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte que je t'ai coupé la parole.
Non. Enfin, c'est un peu l'histoire de l'after. After de vendredi, 22h05. Un début d'after un peu compliqué pour Lionel Charbonnier. Willy Sagnol termine son propos sur les finales de Coupe, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Et Lionel se gratte la tête. Et il y a un problème, ça ne lui va pas du tout.
Je ne pense pas qu'il y ait des données économiques derrière. Je pense que c'est plus d'une donnée philosophique.
Bah, la Coupe de France, Willy, c'est quand même plus la Fédé. Coupe de la Ligue, c'est plus la Coupe de la Ligue.
C'est ce qu'on a dit, oui.
Non, la Coupe de la Ligue, c'est, pour moi, c'est plus la Coupe de la Ligue que la enfin, c'est pas la Coupe d'œuvre, voilà, ça n'a rien à voir pour la Fédé.
On comprend rien, là. On comprend rien,
là. Il est passé à niveau.
Pardon, mais Nico Villas fait une grosse erreur.
Oui.
D'intervenir à la fin.
Mais oui, mais c'est bon, tout seul.
On appelle ça un beau compagnon. Nico Villas, on appelle ça un beau compagnon. Jean-Luc Tour, on appelle ça un chien.
Nico, prends exemple sur nous. Quand Frag se noie tout à l'heure, on le laisse se noyer.
Silence complet.
Mais bien sûr.
À cause de Nico qui intervient, Nico Villas, la suite est beaucoup plus claire.
La Coupe de la Ligue, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est pour la Ligue. C'est pas pour la Fédé.
Mais c'est ce qu'on a dit.
C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit.
Ah, j'ai compris. Parce que j'avais compris que tu disais que comme la Coupe de la Ligue, la Fédé.
Non, ce que disait Willy, c'est il défend aussi le fait que la Coupe de la Ligue se maintienne.
N'interviens plus, Nico. C'est la dernière fois que tu interviens.
La différence avec moi, c'est que je trouve que Lionel est têtu.
Oui.
Quand il repart et tout, c'est génial.
Bon, voilà. On est quand même loin de la Ligue des Champions. On est loin de Chelsea. On est loin des Blues. On est loin de Franck Leboeuf, quand même.
Vu le fait que les joueurs soient ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, trois joueurs importants sont partis.
C'est extraordinaire. Plus je l'écoute, plus je l'aime. Oh là là, c'est extraordinaire.
Le problème, c'est que tu vois, le sais sur les cinq premiers mots qu'il ne sait pas du tout où il va.
Oui, j'ai fait 7 ans à RMC, il restera que ça.
Non, j'ai Adil Ramzi aussi, mais bon, plus tard.
Ah oui.
Pour bien suivre à Valence ce qu'il a dit, Adil Ramzi. Bon, sans transition, la phrase du week-end nous vient des Pays-Bas. Alors là, vous allez analyser cette phrase. L'ancien joueur Wesley Sneijder a répondu à une interview de Gianluca Di Marzio, journaliste très connu de Sky Sport en Italie. Vous avez noté l'accent. Alors, je vois le titre de l'interview parce que ça m'a quand même attiré l'œil. Il déclare « J'aurais pu devenir comme Messi ou Cristiano Ronaldo », nous dit Sneijder. Il dit « J'aurais pu devenir », précise-t-il, « comme Messi ou Ronaldo, j'en avais tout simplement pas envie ».
Non, mais il aurait pu. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il aurait pu être comme Messi Ronaldo, il a fini comme Jeannot. C'est marrant, ça, quand même. Non, c'est énorme, ça.
Non, mais alors, écoutez la suite. Il explique quand même, parce que le garçon n'est pas bête, il est intelligent, il dit J'ai apprécié ma vie. Je prenais parfois un verre de vin au dîner, donc ça, je traduis en tant que spécialiste, ça veut dire plutôt 10. Léo et Cristiano sont différents, ils ont fait de nombreux sacrifices. Ça ne me dérange pas, ma carrière a néanmoins été incroyable, mais s'il n'avait pas bu un verre de vin le soir, il aurait été comme Messi ou Cristiano.
Ça suffisait. Non,
c'est pas scientifique, ça, quand même.
Non, mais c'est pas que le verre de vin. Il t'explique qu'il n'était pas assez sérieux pour que par rapport aux autres. Voilà, maintenant c'est un joueur énorme, je t'en ai dit, on ne déconne pas quand même.
Ouais, quand il était à l'Inter, il était extraordinaire.
Il aurait pu avoir le ballon d'or.
Après dire j'aurais pu être Messi ou Ronaldo.
Ouais.
Non, mais ce qu'il veut dire.
C'est un néerlandais qui se la raconte, ça.
Oui, mais bon, ouais, après. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il était très fort et qu'il avait potentiel à être encore plus fort, qu'il a peut-être gâché.
Mais rappelle-toi, c'est quand même très haut,
tu dois pas le dire.
Tu dois le dire, mais si Sneijder ne peut pas le dire, qui peut le dire alors, les amis?
On parle
plus là. On ne parle plus à la radio alors les gars, si Sneijder ne peut pas dire ça, on ne parle plus à la radio.
Mais toi, que tu voulais être, je ne sais pas.
Et bien justement, vous voulez t'en parler, Eric,
il
faut peut-être parler.
Ouais, il faudrait que tu arrêtes la radio justement. Non mais regarde Hazard, oui. Pardon.
C'est non vrai, vas-y.
Non mais Hazard, il a fait une interview il n'y a pas longtemps où il t'explique que lui, il s'en fout de les titres honorifiques comme ça, ou les machets ou trucs, il s'en fout.
Ouais, mais il dit pas qu'il aurait été aussi bon que Ronaldo et Messi.
Non,
c'est ça le problème.
Parce qu'il est encore en activité, que peut-être un jour il sera aussi fort qu'eux.
Non, tu ne dis pas.
Mais Dan, bonjour. Sans transition, c'est l'instant Cristiano.
Pardon, Chris.
Oui.
Et qui ose critiquer Cristiano?
Pardon, je t'ai critiqué.
Arrêtez de le critiquer.
Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde.
Oui.
Donc, les deux se parlent là ou quoi? La réalité. Jérôme, il parle à.
Non, c'était un débat en fait en direct à la radio.
C'est un débat en direct.
Cristiano Ronaldo, le Portugais, a encore battu un record. Ah bah, du coup, là, sans jouer. Il a battu le record la semaine dernière. Je vous ai parlé du classement du magazine Forbes, le top 100 des sportifs qui ont gagné le plus d'argent dans l'année. Oui. Donc, déjà, il était bien classé. Il était deuxième, monsieur Cristiano. Non.
Bravo.
Tout à fait. Et du coup, il a quand même battu un record. Il devient le premier joueur de foot à atteindre le milliard de gains en carrière, 1 milliard de dollars. C'est très symbolique puisque c'est le premier joueur de foot de l'histoire.
Il y avait Tiger Woods qui l'a fait.
Alors justement, il y a trois autres sportifs qui ont un jour dans leur vie atteint le milliard de gains.
Il y a un boxeur, il y a un boxeur.
Il y a
Tiger Woods,
Federer et Michael Jordan.
Et non, Federer, bizarrement, n'a toujours pas atteint un milliard. Il devrait les atteindre en 2021.
Mayweather.
Tiger Woods. Michael Jordan et Floyd Mayweather, ouais, le boxeur. Bien joué, du gars. Tu vois, dès qu'on parle de.
On était là.
Sur les mecs ont du pognon, on était là.
Toi, coup,
et on espère, suspense, Federer, j'espère pour lui, va réussir
Beckham,
à rejoindre.
Beckham, il est pas arrivé au milliard, Beckham.
Non.
Et là, t'as aucun membre de la Dream Team là-dedans.
Ben, a priori, non. On parle en dollars, un milliard de dollars, je sais pas.
Ah, 200 dollars, c'est pour ça.
On a raté d'un million.
Après, si Eric, il fait 10 ans de plus RMC, il en sera pas.
Après, est-ce qu'on parle de l'argent au black que les mecs, parce que.
Voilà, bah aujourd'hui ça se fait moins, mais peut-être qu'à l'époque ça se faisait plus.
Eric,
il parle pas de 25 ans. Il y en a, ils sont allés
jouer dans des pays exotiques.
Du gars,
c'est pas beau de parler de 25 ans comme ça.
Des anciens Marseillais qui ont fini à Monaco leur carrière, par exemple.
Aussi.
Avec un nom italien, ça peut s'arranger.
Merci, Adrien.
Tu crois que je parlerais avec toi tous les jours si j'avais gagné un milliard au foot, moi? Non, mais dis-moi la vérité. Non, mais ça me déconne.
Par passion.
Par amitié du sport, de la radio.
C'est pas faux.
Ah oui?
C'est pas faux.
Il faut bien que tu t'occupes si tu gagnes un milliard.
C'est vrai que tu t'emmerdes, tu as raison, je serais peut-être avec toi.
Tu n'aurais pas connu Kikadi, Eric. Voilà.
Tu as raison, je serais présent aussi des gros Kikadi.
Qu'aurait été ta vie sans le Kikadi?
Tu passerais pas pour un mec sympa, en fait.
Ah là, il passe pour un mec sympa.
Et, bah oui,
ça dépend des joueurs.
Il est sympa.
Non, mais parce que quand tu étais joueur de foot, tu passais pas pour un mec sympa, Eric Dimeco.
Non,
là, tout le monde pense qu'Eric Dimeco est un mec sympa.
Oui. Bien sûr, mais Dugam le dit tous les jours.
Bon, il dit que c'est un con, mais il dit un mec sympa.
Allez, merci Adrien, merci Eric, merci Francky.
Ciao, les salut les poulets.
Bonne soirée à vous. Dans un instant, Manu Petit, Gilbert Bribois, Julien Cazard. On refait ensemble la carrière de Nicolas Anelka. A tout de suite.
RMC, 18h-20h, Tim Dugas. RMC, 18h-20h, Tim Dugas, Jean-Louis Tour, Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h03, nous continuons Tim Dugas jusqu'à 20h sur RMC avec Jean-Louis Tour toujours là, mais nous accueillons Emmanuel Petit. Bonsoir Manu.
Salut Dugas, salut à tous.
Bienvenue mon poulet, passez un bon week-end, tout va bien?
Oui, nickel, ouais, mais j'ai un sacré coup de soleil.
Il est tout rouge.
Ah oui?
Ah ouais.
Mais où ça? Où c'est que t'as bronzé comme ça?
En Normandie hier. Ah ouais.
D'accord,
c'est qu'il y avait des nuages et une petite brise un peu rafraîchissante, et au final, ça m'a mis une tarte dans la tronche.
Non, mais c'est où t'as pris le coup de soleil, j'ai dit?
Sur le nez.
Ah non, bah ça y est, tu commences. oui, commence. Oui.
Bah, attends, tu fais du nu, on peut.
Sur le front et sur les bras, parce que je porte un Marcel.
D'accord, ok. Tu fais pas du nu, t'es pas sur les plages naturistes, toi?
Non, il y a des galets en Normandie, c'est pas agréable.
C'est pas agréable, ouais, t'as raison.
Bien.
C'est pour ça qu'on va en cueillir qui fait du nu, ça c'est sûr, surtout quand il est bourré. C'est Julien Cazard. Bonsoir Julien.
Eh bien, bonsoir. Alors, une vraie question que j'ai pour Manu, c'est-à-dire, quand tu fais du nu sur le ventre, est-ce que tu utilises le petit morceau de plastique qu'on appelle la raie dorée, qui écarte les fesses pour justement avoir la raie bien dorée? Alors attention, la raie dorée qui est trouvable dans les bonnes...
On parle de pratique normale de nudisme.
Il a l'air de s'y connaître, le type.
C'est du nudisme.
Voilà, on va pas plus
c'est
loin.
Un petit écarteur de fesses. Faut avoir les fesses musclées, hein. Sinon là, ça épouse l'arrêt doré.
Tu veux dire que Jean-Louis ne peut pas.
Toi, le problème, Jean-Louis, c'est que la fesse épouse l'arrêt doré.
Il absorbe le truc.
Et toi, si t'as les fesses un peu musclées, comme Lisa Razou dans Les yeux dans les bleus, tu peux mettre l'arrêt doré, ce qui te permet d'avoir évidemment une belle raie bien dorée. Après, qui va y vérifier? C'est un délire aussi, parce que franchement, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui vont te vérifier l'arrêt, en règle générale. Et j'aime bien parler technique.
Bah comme je l'ai dit à 18h, je suis content qu'on ait autant de décryptage dans Team Dugas.
Tu remarqueras que tout ça est extrêmement fin et précis.
Ouais. Bien sûr.
Pas précis en tout cas.
Je ne sais pas que tu es des spécialistes de ça, Julien.
Ah bah écoute, moi je m'intéresse aux gens.
Et nous accueillons Gilbert Bribois. Gilbert Bribois également. Est-ce que tu t'es doré l'arrêt, Gilbert?
Déjà, je suis très content d'être de retour dans cette émission de très haut niveau, faut le dire.
Qui va manquer à la rentrée.
Qui va pas se mentir. Ouais, c'est vrai.
Genre de réflexion, oui.
Et voilà, d'ailleurs, comme c'est une des dernières, je suis ravi de participer en me disant que décidément vous allez nous manquer.
Non, mais attends.
C'est gentil, Gilbert, il y a encore 5 semaines.
Oui, hein, encore. On arrête le combien, Jean-Louis?
Officiel, on sait? Ouais, le 10 juillet.
12 juillet, non?
Le 12.
Ah, bah alors.
12 juillet.
Moi, j'avais entendu qu'on
du gars, il est poursuivi par les 12 juillet, ma parole.
Sur France 98.
Le 12 juillet, du gars, ça veut dire que tu travailles le dimanche.
Ah oui, d'accord, ok. Non, alors, j'arrête un peu avant.
Je crois que c'est le 9 juillet.
Je pense que c'est le 9.
Ah, voilà. Ouais. Okay, donc, c'est un hommage à 9 juillet, c'est plutôt 2006.
Oui.
Aïe.
C'est ça, exactement.
Le
9 juillet de Raymond Domenech, c'est ça?
Oui,
c'est le 9 juillet. Moi, j'ai un rendez-vous le 9 juillet.
Ils disaient que ça en conf. On connaît toute la date.
C'est vrai. C'est vrai. Bon, on va revenir en détail dans l'heure qui vient sur la carrière de Nicolas Anelka. On a fait ça avec pas mal de grands joueurs qui ont marqué l'histoire du foot français, du foot européen également. Et là, il y a quand même pas mal de choses à dire sur Nicolas Anelka, notamment sur ses passages en Angleterre. Il a fait 6 clubs anglais, Nicolas Anelka. C'est pour ça que Julien Laurence, notre correspondant à Londres, est avec nous. Salut Julien.
Salut Jean-Louis, salut à tous.
Salut Julien.
Alors, Julien, on va pouvoir.
Il va se dorer l'arrêt, lui aussi.
Oui, bien sûr.
Alors, lui, il a une tête, lui. Ça doit être. C'est ça, sûr. Hein. Ça se lit sur sa tronche.
Il adore des raies dégagés.
Ah, non, mais lui, il a l'entrée du club des doreurs de raies. Je te le dis de suite.
Très bien.
Ah,
bah, bien sûr.
J'ai ma plage, même.
Ah non, mais c'est sûr.
Alors, on va commencer, si vous le permettez, par l'ordre chronologique sur la carrière de Nicolas Anelka, et on fera un point vraiment précis sur l'équipe de France, la fin d'aventure compliquée. À 19h30, on sera avec François Manardeau, ancien chef de presse des Bleus, qui a beaucoup connu Nicolas Anelka, qui a beaucoup eu affaire à lui. Il sera avec nous tout à l'heure. Mais donc, le début de carrière donc de Nicolas Anelka. Alors, c'est l'explosion donc au PSG, avec ce transfert très tôt pour Arsenal. En gros, il fait une demi-saison au PSG, et dès la saison d'après, il veut plus de temps de jeu, il n'en a pas, et donc, direction Arsenal. Le « je veux plus de temps de jeu, j'en ai pas », ça a été un peu l'histoire de sa carrière, on y reviendra. Mais donc, Manu, tu es Arsenal à cette époque-là, ou tu arrives au même moment ?
Il arrive en quelle année ?
En 97.
Bon, on arrive ensemble.
Février 97. Toi, t'arrives peut-être à l'intersaison.
Moi, j'arrive quelques mois après lui.
Ouais, c'est ça. D'accord.
À l'issue de la saison, on gagne le titre avec Monaco en 97, donc un an avant le mondial. Donc, j'arrive et je vois un gamin qui est vachement introverti, qui parle très peu, mais qui a une qualité incroyable au niveau des pieds, quoi, une dextérité impressionnante, une tonicité aussi au niveau de la pointe des pieds, qui à son âge, moi, m'avait bluffé parce que on a l'impression qu'il touchait jamais le sol. Qu'il était capable d'enchaîner 10 appuis sur un espace extrêmement réduit avec une vivacité déconcertante. En plus, c'était une flèche, le gars. Il a la 2000 à l'heure.
Est-ce que c'était pas le nouveau, quand les premières impressions, ça t'a pas fait penser à Ronaldo, le Brésilien, Manu?
Ronaldo, moi, les comparaisons, tu sais, avec ce genre de joueur, Ronaldo, c'est quand même un artiste. Le mec, il est né avec un ballon au pied.
Mais aussi vite dans son registre.
Nico, il avait beaucoup de qualité balle au pied, mais il n'avait pas la même dextérité dans les enchaînements que pouvait avoir
moins véloce, peut-être, non?
Il jouait moins sur l'instinct. Nico, il avait des dribbles préférentiels, des feintes préférentielles. Ronaldo en avait également, mais il jouait davantage sur l'instinct. Ouais. Sur l'instinct,
il avait plus de mal à lire, j'ai l'impression.
Exactement. Ouais. Et il jouait souvent sur sa puissance d'appui. Sur cette faculté, parce qu'il avait il a un corps bâti pour justement tout ce qui est rotation, il va à 2000 à l'heure. Donc c'est clair qu'en plus de la pointe de vitesse qui était phénoménale, il laissait souvent les joueurs sur place, quoi.
Et ils se font bien dans le foot anglais, Julien, puisqu'il va alors mettre quelques mois pour s'adapter et ensuite enchaîner deux très grosses saisons.
Exactement, c'est ça. Donc il arrive en février 97, cette fin de saison 97, donc 96-97, il joue que 4 matchs de championnat où surtout il s'adapte à la vie un petit peu londonienne aussi, il s'adapte à Arsène Wenger, à l'équipe, à Manu, au vestiaire aussi, comme l'a dit Manu, hein, c'était très compliqué pour lui au départ aussi parce qu'il était très introverti. Et puis après c'est vraiment la saison 97-98, celle du doublé Coupe Championnat, même si c'est Ian Wright qui est titulaire avec Bergkamp. Nico, notamment en deuxième partie de saison.
Et il a 19 ans là aussi. Ouais. Saison,
Il a 18 ans, ouais. 18 ans,
mais ouais.
Il a 18 ans la saison suivante, voilà, c'est ça. Et donc il y a le titre, il y a le doublé en fin de saison qui est assez incroyable. Il marque notamment aussi en finale de la Coupe d'Angleterre à Wembley contre Newcastle. Et puis après la saison suivante, 98-99, qui est sa meilleure saison des deux saisons avec Arsenal, où il marque 17 buts en championnat, je crois, alors qu'il a que, comme tu l'as dit, 19 ans simplement. Et là. Sur le terrain, tout va bien. En revanche, en dehors du terrain, c'est là où il a vraiment commencé à connaître de grosses difficultés qui, d'ailleurs, à la fin, vont l'amener à quitter le club.
Oui.
Excuse-moi, c'est pas cette année-là aussi qu'il met un doublé contre l'Angleterre?
Alors, justement, là, j'allais y venir avec
Dugas. Quels sont les problèmes? On peut pas savoir ce que c'est les problèmes en dehors?
Si, donc le côté introverti, je pense, à un moment l'a aussi rattrapé. Il habitait dans le quartier d'Edgware Road avec ses deux frères. Ils sortaient très très peu, ils avaient très peu d'amis, ils connaissaient personne. Je pense que Manu aussi sera d'accord avec moi. Il sortait très peu avec les joueurs.
Il venait
aussi,
souvent chez moi.
Il était très très jeune. Hein.
Il dormait souvent chez moi.
Chez toi, mais sinon il sortait très peu. Il sortait très peu, sinon dans la vie un petit peu sociale, que ce soit de l'équipe ou en général à Londres. Et je pense que ce fait de cet enfermement-là ne l'a pas beaucoup aidé. Et puis après, il a eu des gros problèmes avec les tabloïds. À chaque fois qu'il disait une interview, qu'il disait quelque chose, c'est transformé, c'était amplifié. Et notamment, à un moment, les tabloïds l'ont accusé d'avoir dit que Bergkamp et Overmars ne jouaient qu'entre eux, qu'ils le laissaient de côté, qu'ils lui faisaient jamais de passe, alors qu'il n'avait pas vraiment.
Quand il s'exprimait pas, les autres s'exprimaient à sa place, quoi.
Exactement, il y a eu beaucoup de ça, ce qui fait qu'à la fin, ça l'a poussé dehors.
Je reviens sur un truc, pourquoi il dormait chez toi, Manu? Bah moi, je venais d'arriver. Lui, ça faisait quelques mois qu'il était là. Et comme on était deux garçons assez introvertis.
Oui, j'allais dire, les discussions, ça devait être énorme.
Ah, mais je parlais
de quoi?
Personne parlait des deux côtés.
Les gens,
qu'est-ce qui te disait, j'aime tes silences.
Les gens, quand ils ont confiance en eux, ils se satisfassent justement du silence qui les entoure.
Ah oui, c'est ça.
Pas besoin de meubler en permanence.
D'accord.
On appelle ça des éoliennes, tu vois.
On devait se faire chier, alors, parce que franchement.
Non, il venait souvent parce que c'était à l'époque où c'était vraiment démocratisé, tout ce qui est jeux vidéo et compagnie. Et je savais que c'était un des moyens de sociabiliser avec lui et de forcer un petit peu cette armure, cette protection qu'il met en permanence autour de lui, quoi.
D'accord, vous jouiez aux jeux vidéo, quoi.
Oui, même si moi, j'ai jamais été un grand passionné, mais des fois, tu vas dans le sens des gens que tu as envie de rencontrer, tu as envie de découvrir.
Ah, c'est intéressant.
Vous avez combien d'années d'écart?
Avec les Anglais, je suis allé au comptoir. Je suis pas allé dans un jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, t'avais envie de t'ouvrir, d'aller vers les autres.
Attends, t'as 15 ans de plus que lui.
T'as pas 15. Non, arrête un peu.
Pas 15.
Bah, enfin.
Craqué, toi.
10, non?
Je crois qu'on a 10 ans d'écart.
Ouais.
Je vérifie tout de suite.
Moi, quand je suis arrivé à Arsenal,
Manu, tu connais ton âge? Déjà, partons de la base.
50 bientôt. Ouais.
50 bientôt? T'es sûr de toi?
Quelle année?
Gilbert?
Et lui, il est 70.
70?
Lui, il est 79.
9 ans d'écart.
9 ans, voilà.
On a 9 ans d'écart.
Ouais, j'étais pas loin.
Oui, pas loin.
Et comme je connaissais bien ses frères aussi, je connaissais bien ses frères qui l'ont défendu longtemps. Il y a,
oui.
Il y a eu des embrouilles après, tout le monde le sait. Mais tu sais, je vais te faire une anecdote. Le nouveau camp d'entraînement d'Arsenal, quand on l'a inauguré, je crois que Nico était déjà parti au Real Madrid à son transfert record à l'époque. Et nous, on s'amusait à dire au moment de l'inauguration, merci Nico, merci Nico, merci Nico. C'est grâce à son transfert.
C'est son argent, bien sûr.
Ah oui.
Tout à fait. Ouais.
C'est grâce à son transfert que le nouveau champion d'entraînement était
sublimissime.
D'accord. Parce qu'il avait, coûté rien du tout.
Avec son argent, ils vont chercher Souker et Thierry pour le remplacer. Donc, l'argent de son transfert,
ouais.
Il permet de payer pour Henry, pour le transfert d'Henry, de la Juve et de Souker qui arrive à cet été-là, l'été 99, et aussi bien sûr, comme l'a dit Manu, pour le centre d'entraînement. Mais juste pour finir sur l'impact qu'il a eu en Angleterre sur cette.
Pour vous rendre compte, voilà.
C'est ça, ouais. Et l'impact qu'il a eu, Manu l'a dit déjà au sein de son propre club, mais surtout sur le championnat d'Angleterre, même s'il reste que deux ans, c'est que n'oublions pas qu'à cette époque-là, les attaquants anglais, les avant-centres anglais, c'est les grands un peu bourrins,
Stone,
Shearer, Hasselbaink. Voilà, on est vraiment au début de ce genre de d'attaquants-là, racés, rapides, mais très bons techniquement, un petit peu comme Michael Owen qui lui aussi est en train d'exploser, comme Robbie Fowler qui a lui aussi eu de très bonnes saisons avant l'arrivée de Nico. Mais pour les Anglais, c'est très nouveau tout ça. Ils sont encore habitués à Ian Rush, à Alan Shearer et tout ça. Et donc eux, ils voient ce gamin arriver là de Paris qui parle très peu mais qui a un talent incroyable, et c'est là où aussi il va choquer l'Angleterre et complètement surprendre tout le monde.
Et donc on est quand même toujours sur le début de sa carrière, hein, donc cette explosion à Arsenal. Il intègre l'équipe de France après la Coupe du Monde, donc en 98.
Il faisait partie des 6, rappelle-toi.
Des 6 recalés par Aimé Jacquet, ouais. Effectivement.
Parce qu'il fallait prendre du gars.
Pardon, voilà. Excusez-moi. Ouais, on m'avait dit, ne dis pas ça. Putain, non, mais voilà.
Non, mais
c'est fou, ça.
Non, mais t'as pas tort. Je crois que c'était lui ou moi. Non, mais t'as pas tort. Après, tu déconnes, mais c'est vrai.
Non, mais toi, il était plutôt en balance avec un Trezeguet ou un Henry, vu qu'il était jeune et tout.
Tu
non
crois?
Bah oui.
C'était plus, il allait pas prendre trois jeunes.
Donc, on rappelle Philippe Tournon, c'est lui qui nous balance tout, là. Qui nous disait que Manu a failli pas être pris.
Ouais, je sais pas.
Mais donc, il arrive en équipe de France après, donc. Et il y a ce fameux match dont parlait Julien le 10 février 99.
Ah oui.
Du gars, tu y étais. Hein, je le rappelle.
Ouais, bien
moi
sûr.
Aussi.
Toi aussi, Manu, oui, bien sûr. Mais bon, toi, tu étais.
Non, mais c'est affreux ce que tu viens de faire.
Mais non, mais Manu, il était titulaire indiscutable. Ouais, voilà. Non, mais donc, il met un doublé à Wembley alors que la France n'avait jamais gagné en Angleterre à ce moment-là. Et là, il marque les esprits. Dugas, t'as le souvenir d'Anelka arrivant en équipe de France à cette époque-là?
Moi, il me fait penser. C'est pour ça que je posais la question à Manu s'il avait le même ressenti que moi, mais je trouvais qu'il avait des qualités assez de jambes de puissance, un petit peu comme Ronaldo, le Brésilien. Je trouvais que c'était ça. C'était une des. C'est la première fois que je voyais un joueur qui ressemblait autant au Brésilien. Donc voilà. Après, oui, il savait faire beaucoup de choses. Très effacé. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Alors, pas un grand extraverti, bien évidemment, mais je l'ai trouvé plutôt. Non, mais tranquille, posé, gentil garçon, poli. Enfin, moi, j'ai jamais de
Non, mais toi, tu rigoles avec tout le monde aussi, du gars. Donc, t'as dû aller.
Non,
mais il y a une perception des gens, d'une façon générale, sur Nico et d'une partie des médias aussi. Après, c'est un débat. Hein. Il y a peut-être des raisons pour faire ça. Mais tous ceux qui le connaissent intrinsèquement, profondément, depuis X années, tout le monde s'accorde à dire que c'est un garçon mais aimant, chaleureux, affectueux, avec des valeurs, droit. Enfin,
ouais, j'ai pas vu un gamin froid, j'ai pas vu un gamin je m'en branle de tout. J'ai pas ce ressenti-là avec ce garçon.
Mais par rapport au Maillet, c'est ce qui dégageait.
Oui, totalement
arrogant,
toujours dans la lutte.
Rappelons que c'est l'époque où Gilbert suivait l'équipe de France, qu'il a fait pendant 15 ans. Donc, c'est l'image qui.
On veut bien le croire.
C'est l'image qui ressortait
d'ailleurs. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est un des. Peut-être même le seul de l'époque. Avec qui, en fait, aucun contact n'était possible. C'est-à-dire qu'en fait, tu sentais que... Je sais pas, c'est comme si...
Gilbert, encore aujourd'hui...
Moi, j'analyse ça, moi, je mets ça sur le compte d'une sorte de d'ultra-timidité, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que souvent, c'est ça, les gens qui sont dans... qui développent une espèce d'image un peu... Tu peux penser être arrogant ou quoi.
Certaines pudeurs aussi.
Voilà, peut-être, mais sauf que... Le truc, c'est que je pense aussi qu'il a... Bon, alors ça, c'est son caractère. Donc, les gens qui sont comme ça, c'est difficile de les... Comment dirais-je, de les pousser à être autrement, évidemment. Mais je pense surtout que tout au long de sa carrière, en tout cas sur le plan de son image, il a sans doute été très mal conseillé.
Le côté clanique un peu excessif, non ça?
Oui, bah, c'était... En gros, le message, c'était... De toute façon, moi, je vous emmerde, quoi. J'ai pas besoin de vous.
Oui, c'est un peu l'incompris voilà, aussi.
C'est ce qu'il transpirait. C'est peut-être que c'était pas ce qu'il ressentait lui. Mais en tout cas, c'est... Et puis, ça avait l'air de l'arranger.
Oui, mais on avait l'impression effectivement qu'à chaque interview qu'il donnait, ça n'allait pas.
Déjà toute sa carrière, il a donné des interviews à un journaliste, toujours le même.
Exactement. Bah, il estimait
qu'il est son pote, quoi.
Arnaud Ramsès.
Oui, qui est son pote.
Il estimait que c'était le seul qui le comprenait et que tous les autres ne comprenaient rien, quoi.
C'est quand même assez étrange.
Il retranscrivait exactement mot pour mot sa parole à chaque fois.
Oui.
Donc il y avait un rapport de confiance.
Il devait même sans doute relire les interviews, j'imagine.
Non, exactement. Mais moi, si je peux rajouter une chose, c'est que à chaque fois que j'ai vu Nico performant en équipe de France ou en club. Et notamment ces périodes dorées avec Arsenal où il marchait sur l'eau et où il était bon aussi avec l'équipe de France. C'est à chaque fois où il était heureux dans sa tête quand il était entouré d'un environnement qui était respectueux, basé sur certaines valeurs. À chaque fois qu'il rentrait en conflit, là, il sortait de son rôle et il devenait presque des fois même radical dans certaines positions. Et ça ne lui apportait que des ennuis qui après, ça se répercutait sur le terrain en fait.
D'accord. Et après, il y a un truc quand même avec lui, c'est que tout ce qu'il a pu faire a été grossi. Comme il a été annoncé comme le nouveau phénomène du foot français, on peut prendre pour exemple ce qui se passe à Madrid.
Il a un palmarès de fou.
À Madrid, justement, il part donc l'année suivante de celle dont on a parlé avec Arsenal, donc saison 99-2000. Il remporte la Ligue des Champions avec le Real.
Ça se finit mal à Arsenal, d'ailleurs, il faut quand même le dire.
Oui. Bah, alors, vas-y, Julien.
Non, c'est vraiment la façon dont il quitte le club, les supporters avait vraiment tourné, était contre lui, mais même si cette saison-là, il y a pas de titre pour Arsenal en 98-99, avec Manu, vous remportez pas le titre, vous perdez votre titre, etc. Mais c'est vrai que ça se finit très très mal et c'est vraiment dommage parce qu'il avait quand même fait deux saisons exceptionnelles et que bah voilà, ça part en autre boudin.
Mais dis-moi, Julien,
c'est con parce qu'il chantait merci Nico
par le club en vociféré. Non, mais c'est vrai.
Julien, toi, t'es arrivé à discuter avec lui?
Moi, je l'ai fait quelques fois en interview. Je le connaissais très bien. Je connaissais très bien Doug aussi, qui était son adjoint ou son conseiller, on va dire, avec ses frères. Pendant très longtemps, quand ils sont après revenus en Angleterre, à Liverpool, à Chelsea, on en reviendra tout à l'heure. Mais je les ai beaucoup fréquentés. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Manu. Pour moi, il a toujours été très droit avec moi. Ils ont toujours été très 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 sympas, très honnêtes aussi. Ils m'ont jamais fait de coups à l'envers ou quoi que ce soit, contrairement à d'autres joueurs. Mais je comprends que de l'extérieur, ils puissent avoir effectivement un rapport assez compliqué avec les supporters.
Donc la saison à Madrid qui se finit par la victoire en Ligue des Champions, il marque en demi-finale contre le Bayern, il est titulaire en finale, mais il y a eu une période où je disais que tout était grossi, une période de polémique énorme, quand en gros il se plaint de son temps de jeu, il n'arrive pas à avoir une explication de la part des dirigeants, du coup il sèche l'entraînement.
En relation sur le terrain avec certains joueurs aussi.
Exactement, il sèche l'entraînement, il est même absent pendant 3 jours de l'entraînement, ça fait une polémique pas possible, et finalement il est obligé de s'excuser, il est réintégré dans le groupe et arrive donc cette demi-finale où il marque finalement.
Mais pourquoi il y a ces faits-là? Qu'est-ce qu'il reproche? Que les autres ne le comprennent pas? La vie en groupe? Pourquoi on en arrive à des soucis comme ça? Parce que moi je sens que c'est un gentil garçon, tranquille, bah, cool, qui n'est pas un embrouilleur, enfin, c'est pas un chercheur de merde non plus. C'est quoi le problème?
Il avait l'impression à l'époque que les cadres ne jouaient pas avec lui et les cadres devaient avoir l'impression qu'il ne faisait pas tous les efforts pour s'intégrer.
Moi je pense que le problème il était surtout lié au fait qu'il ne s'est jamais réellement adapté dans le vestiaire madrilène. Et qu'au sein des cadres historiques du Real Madrid, ça passait pas.
Oui,
les mecs, ils l'ont un peu mis de côté, que Nico, le connaissant, il a dû se braquer
et dire bah, moi je vous emmerde tous quoi, tu vois.
Ouais. C'est les mecs sympas, c'est comme Ben Arfa, tous les gens qui le croisent Ben Arfa disent qu'il est hyper gentil, non, hyper sympa. C'est-à-dire que c'est quand même différent d'être hyper gentil, hyper sympa et de faire l'effort pour s'intégrer dans un groupe tu vois, de foot.
Oui, quoi. Oui. Julien, gentil, hein. Tu voulais ajouter un mot?
Non, je me rappelle d'une histoire incroyable que Nico m'a racontée. Je pense que c'est vrai parce qu'il me l'a raconté. Mais le premier jour où il arrive au centre d'entraînement du Real Madrid et qu'il va pour s'installer, dans le vestiaire, il n'y a pas de casier à son nom. Tout le monde a son casier et lui, il n'y a rien. Ça veut dire qu'à aucun moment, il lui avait préparé son arrivée. Personne ne l'a présenté au reste du groupe. Et donc, lui, il se sentait dès le premier jour déjà, il sentait bien que personne ne voulait qu'il soit là parmi les joueurs. Et à partir de là, ça a été très compliqué, effectivement, avec notamment les cadres du vestiaire. Mais personne ne lui disait bonjour, personne ne lui adressait la parole, à part les
Français
comme Jérémy ou Eto. Mais c'est vrai, c'était assez compliqué. Oui, j'imagine, Manu, c'est vrai.
On m'a fait exactement la même chose au Barça. On m'a même allé plus loin, c'est qu'on m'a demandé mon nom quand je suis arrivé.
Ouais, parce qu'ils avaient peur que tu leur piques la place. Moi, je peux te garantir, ils m'ont fait un banquet. Moi, ils m'ont dit putain, il est content qu'ils soient là, celui-là. Ils savaient que j'avais piqué la place mais de juste, personne.
Excusez-moi sur cette histoire-là. Mais enfin, il faut dérouler le tapis rouge à tout le monde, là.
Non, pourquoi?
Bah non, mais
la Palo Real, c'est connu qu'il t'accueille. Franchement, c'est pas Happy Birthday. Il n'y avait pas un gâteau avec des bougies.
Voilà.
Zidane, il a mis 6 mois.
Toi, Anelka, tu es, t'arrives au Real, mon vieux. Donc c'est
comme si RMC, t'avais pas de bureau en arrivant, Gilbert.
Ah, c'est mon cas.
Gilbert, voilà. Et pourtant, il donne tout ce qu'il a.
Oui, mais t'as pas besoin de travailler, toi. C'est ça le raisonnement.
Pendant 4 ans, j'ai pas eu de bureau RMC. J'ai fait la gueule à personne.
Franck Leboeuf.
Ah oui, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a, du gars?
Pendant 4 ans, j'ai pas eu de bureau RMC. J'ai fait la gueule à personne.
En même temps, si t'avais eu un bureau, je sais pas si tu serais venu souvent
Ah, il n'aurait pas été très sale. À la femme de ménage, elle aurait été tranquille.
À quel étage est notre rédaction du gars déjà?
Ah bah, à la 5e, bien sûr.
Ah, merde. 3e. Demande pas l'arrondissement en plus. Hein, parce que là, on est mal. La ville, quand même, t'as une idée de la ville?
Alors, après donc, cette expérience madrilène, il y aura le PSG où c'est pas un triomphe. Hein,
ah non, tout. PSG, il y a un grand moment. C'est la conférence de presse de présentation.
Oui,
il vient avec le survêtre relevé et puis le pull sans manche là.
Ah oui, il a une jambe relevée.
Génial.
Une jambe relevée, c'est ça, je crois.
Oui, c'est l'image.
Le pantalon, oui.
Et le pull un peu genre.
Tout dans le style.
Fourrure sans manche.
Oui, c'était magnifique. C'était magnifique.
Moi, mon meilleur souvenir c'est au Guignol avec Luis Fernandez.
Nico et Luis. Bien sûr.
Ça a servi à ça.
C'est vrai qu'ils avaient du mal à se comprendre à un moment, alors que Luis, c'est celui qui lance Anelka au début, lors de la première période. Et effectivement, ça se passe pas très bien avec Luis. Alors d'abord, Anelka vient avec Bergerot, dans la fameuse génération quartier Île-de-France.
Dalmat.
Voilà. Et ensuite, quand Bergerot est évincé, c'est Luis qui revient. Et là, effectivement, le courant passe pas. Retour en Angleterre ensuite, prêté à Liverpool et ensuite à Manchester City. On le perd de vue en Turquie, ensuite à Fenerbahçe. Et on peut dire qu'il connaît une deuxième carrière lors du passage à Chelsea, Julien, à son arrivée, c'est 2008.
Tout à fait. Ouais, c'est ça. Bizarrement, il se relance à Bolton avec Sam Allardyce où il fait une saison et demie très très bonne. Et puis ça lui permet effectivement de signer à Chelsea où là c'est peut-être ses meilleures années en termes de maturité. C'est vrai que voilà, quand il était très jeune à Arsenal, il a fait des choses exceptionnelles, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais là, c'est vrai que tu sens qu'il a grandi, il est beaucoup plus mature. C'est un groupe qui est beaucoup plus complet. Il est beaucoup plus ouvert aussi avec tout le monde. Il s'entend très bien, notamment avec Drogba, Malouda et tout ça. Pareil avec les entraîneurs aussi, ça se passe très très bien, notamment avec Carlo Ancelotti, avec qui il gagne donc son deuxième titre de champion d'Angleterre en Première Ligue. C'est très rare d'ailleurs, les joueurs qui ont gagné deux titres de champion d'Angleterre de Première Ligue, en tout cas avec deux clubs différents. Il a notamment une saison où il finit meilleur buteur de la Première Ligue avec 19 buts en 2008-2009, où vraiment cette saison il est très très bon. Et puis parfois il joue avec Drogba, parfois il joue un petit peu derrière Drogba, plutôt sur un côté. Le seul point noir peut-être de cette période-là, c'est bien sûr la finale de la Ligue des Champions en 2008 à Moscou contre Manchester United, où il rate ce tir au but qui offre la victoire à United en finale contre Chelsea.
Exactement. Mais il sera quand même de la victoire de Chelsea en 2012, non?
Ah non, il a un doute.
Non, il part en Chine en janvier 2012.
Mais il est considéré comme vainqueur quand même de la compétition parce qu'il fait les 6 premiers mois. Mais ouais, ok.
C'est ça, moi aussi, je suis la phase de poule.
Je me considère vainqueur.
Il sera pas là en finale, voilà. Il fait pas toute la deuxième partie de saison avec Di Matteo.
Effectivement. Il y a un gros morceau à aborder, c'est quand même l'équipe de France. On a parlé des débuts réussis. L'équipe de France, ça va se terminer un soir d'Afrique du Sud face au Mexique. On y revient dans un instant. Dans Team Dugas, on retrace ensemble la carrière de Nicolas Anelka. Tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, on continue. Team Dugas avec Gilbert Bribois, avec Julien Cazard, avec Emmanuel Petit, avec Jean-Louis Tour, avec Julien Laurence. Que du beau monde. Et on continue surtout de parler de Nicolas Anelka.
Il y aura le blind test SMS également, inscrivez-vous 32-16 hein, pour faire équipe avec Duga ou Julien ou Manu ou Gilbert. Nouveau blind test tout à l'heure.
J'ai jamais perdu au blind test.
Ah bon, attention, tu peux plus tricher maintenant.
J'en ai fait deux, j'ai gagné les deux.
Précise que forcément, tu avais regardé la liste la dernière fois. Non,
mais de quoi
tu ne peux plus tricher.
Tu avais les preuves. Oh, bah, oui, oui. D'accuser les gens sans preuves.
Ah bah là, il n'y a pas besoin de preuves, c'est bon.
C'est bien que de balancer, hein, bon.
On va pas s'embêter avec ça. On a nos certitudes.
Lui, il est poursuivi. Ce type est poursuivi.
Attends, c'est la plus grande frustration de sa carrière, le pauvre Manu.
Ah, j'ai tourné la page.
Eric lui a volé des titres. Voilà, qu'est-ce que tu veux.
Rends-moi mon bord, les Angélique.
Oui, oui, il a des preuves. Le lance pas là-dessus, il en a des preuves.
En tout cas, d'après Youri Djorkaeff, oui. On l'a eu à l'antenne, lui, oui. Il fait pas semblant.
Oui, oui,
il dit clairement qu'il s'est fait chouraver trois titres.
Alors, on va parler de la période équipe de France de Nicolas Anelka avec François Manardeau, chef de presse, ancien chef de presse de l'équipe de France et qui connaît très bien Nicolas Anelka. Salut François.
Salut, salut.
Bonsoir François, merci beaucoup d'être là.
Redis-moi juste pour la chronologie, à quel moment toi tu arrives comme chef de presse des Bleus ?
Moi j'arrive en 2008, qui est une période faste, n'est-ce pas? et très très vite, je vais bien accrocher avec Nicolas.
Ouais.
Et tu pars quand, l'équipe de France?
Ah ben, je suis saqué, évidemment, au retour d'Afrique du Sud.
Mmh. Ah ouais. Oui. C'est peut-être toi le problème en fait.
T'es régalé.
Poursuivi en
juge. Ça avait été que moi le problème, les amis. Ça avait été que moi.
Oui. T'as retrouvé la taupe ou pas?
Alors.
Oui, je l'ai retrouvé. Ouais.
Tu dis effectivement que t'as une bonne relation avec Anelka, qui est à ce moment-là, cette période-là. Donc on parlait tout à l'heure de deuxième carrière à Chelsea, la carrière de la maturité avec Julien Laurens. Mais à ce moment-là, en équipe de France, 2008-2010, c'est un cadre de Raymond Domenech.
Ouais, complètement. Raymond l'a relancé, l'a remis en selle dans cette relation qui a toujours été difficile, contrariée avec l'équipe de France et qui date finalement de 1998 puisqu'il fait partie des six là qui étaient mis dans la benne.
Oui, exactement.
Et c'est quelque chose qui l'a durablement marqué. Et en 2008, ouais, effectivement, Nicolas, il est un joueur important de cette équipe de France. Ouais.
Il marque notamment le but en barrage donc de la Coupe du Monde, avant la fameuse main de Thierry Henry au retour contre l'Irlande. Il marque ce but ultra important à ce moment-là.
Il ne marque pas à Dublin, lui, plutôt ?
Il marque pas à Dublin. Ouais,
Dublin, il marque.
Oui,
mais c'est exactement ce que je dis.
Ah d'accord, pardon.
Le barrage allait.
C'est possible que des gens le voient.
Mais donc, oui, alors à ce moment-là, quelle est sa relation avec Domenech, précisément ?
Alors, la relation est bonne, contrairement à la relation avec le prédécesseur de Raymond, qui était inexistante. La relation avec Roger Lemaire, qui avait été compliquée, notamment après une Coupe des Confédérations ratée dans toutes ses largeurs en 2001. En revanche,
qui avait été gagné quand même la Coupe des Confédérations.
Qui avait été gagné, mais Nicolas était passé à travers ce tournoi. En revanche, il y a une chose importante qui s'est produite. Alors peut-être que Julien était à Clairefontaine à ce moment-là, entre le match aller et le match retour, puisque Nicolas est le joueur qui offre la victoire si importante pour la qualification, en marquant ce but à Dublin. C'est que ce but-là, et moi j'en étais témoin, j'ai beaucoup échangé avec lui à ce moment-là, l'avait en plus, lui avait donné une espèce de retour en quelque sorte d'investissement par rapport à l'équipe de France. Il en a été très important, il en a été très très heureux. Et il va se passer un incident avec la presse, une fois n'est pas coutume avec Nicolas.
Avec Gilbert.
C'est que je demande à Nicolas en fait de se rendre au point presse lorsqu'on rentre à Paris. Il accepte évidemment. Et il va y avoir une question qui va le tirer vers le bas, parce que je sais pas si Manu et Christophe on en parlait, parce qu'ils le connaissent très bien également, mais Nicolas est quelqu'un qui s'en cache un peu, mais c'est quelqu'un aussi assez sensible. Et il va y avoir une question, en fait, sur son jeu. On va lui reprocher, on va le critiquer.
De reculer trop, non? C'est ça?
De revenir. Ouais, de dézoner.
De revenir, ouais.
En fait, le jeu
dézoner.
De Nicolas, c'était...
Dézoner, c'était. Bah, il le faisait.
Il le faisait, mais parce que tu peux pas comparer David Trezeguet avec Nicolas Anelka. Voilà. C'est un joueur offensif, un attaquant qui dézonnait, qui avait besoin de dézonner. Et on va le lui reprocher. Et moi, je m'entretiens avec lui après ce point presse. Et il est absolument dégoûté et désespéré. Et c'est un marqueur dans ce qui va rester de sa carrière avec les Bleus, parce qu'il me dit, tu te rends compte, je marque le but à Dublin. J'ai quand même eu une relation difficile. Ça a été, je t'aime moi non plus, avec l'équipe de France depuis 98. Et même là, quand j'arrive avec mes coéquipiers, mais je donne la victoire aux Bleus, on me critique encore. Et il ne faut pas mésestimer à quel point ça l'a touché.
Ouais, mais alors François, pardon, mais accepter la critique, faire avec, ça fait partie aussi de la panoplie du joueur de haut niveau. Là, je dis oui, gars, oui, Manu. Oui.
Et si tu veux, tu acceptes la critique, Jean-Louis, effectivement, mais quand tu es passé à travers.
Ouais.
Ah ben lui demander si c'est un problème qui dézone, franchement, si le mec il se met dans les états pareils pour ça, bah là.
Il n'a pas le droit. En plus, c'est la vérité.
Il faut se détendre. Hein.
Du gars.
À ce moment-là, encore une fois, d'une carrière très compliquée avec l'équipe de France, fait beaucoup plus de bas que de haut, il pensait qu'il allait être un petit peu reconnu comme d'autres joueurs de l'équipe de France, finalement, à qui on a tressé des lauriers.
Mais est-ce que c'est pas ça,
voilà, ils donnaient une victoire, ils ont fait la victoire, ils étaient brillants. Et lui, là-dessus, il a eu le sentiment, à tort, hein, je partage en partie votre avis, que ben, on lui cherchait encore des poux dans la tête.
Mais est-ce que justement, c'est pas ça le problème de Nico, c'est qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il estimait devoir et recevoir. Il était champion d'Europe aussi en 2000. Oui. Est-ce que c'est pas ça plutôt? Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux problèmes. Je le connais pas si bien que ça non plus, mais ce que je peux en entendre à gauche, et je trouvais que c'était intéressant tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui a dit, qu'il était peut-être pas assez bien entouré par rapport au caractère qu'il avait.
C'est moi, le truc intelligent, c'est moi en général.
Voilà, Gilbert, voilà. Peut-être que ça aussi, quand t'as un garçon pour un garçon qui est assez réservé, qui a son tempérament, qui peut être se sentir agressé ou mal compris ou un truc comme ça, est-ce que justement il n'aurait pas eu besoin de quelqu'un qui le conseille à côté pour passer ces moments difficiles qui sont pas si importants que ça
dans une carrière? Une carrière,
qu'il faisait pas confiance à grand monde dans le monde du foot.
Voilà, c'est ça. Une carrière, ça tient aussi là-dessus. Je veux dire, ça tient aussi sur la relation que t'as avec le monde extérieur. Et c'est malheureux pour certains footeux qui l'acceptent pas. Mais le lien avec le monde extérieur, c'est les médias. Enfin, François, oui, François,
justement. Sa relation avec les médias, elle s'est vite envenimée. Il a évidemment sa part de responsabilité parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu, Nicolas, et c'est pas faute d'avoir une longue conversation avec lui sur le sujet, qui n'a jamais voulu, contrairement à beaucoup d'autres coéquipiers en club et aussi en équipe de France, jouer le jeu de la séduction, jouer le jeu de se vendre un peu plus. Pour lui, le seul terrain d'expression, finalement, c'était le terrain.
Mais justement, François, là, ce que tu viens d'évoquer là auparavant sur le fait qu'il dézonnait, c'était avant la Coupe du Monde en 2010.
Oui, exactement. C'était le barrage de qualification entre l'aller et le retour.
Ce qui s'est passé dans ce fameux vestiaire à l'issue du match où il y a eu des échanges.
Bref.
Bah, en résumé, dans le deuxième match, il explose parce que Raymond Domenech lui reproche de dézonner.
Exactement.
Ben oui, c'est ça. Ça,
ah oui, après ça c'est le match à Polokwane au Mexique, ouais, voilà. Contre le Mexique, oui, ça c'est en Afrique du Sud.
Non, mais disons que ça montre bien qu'il était assez sensible sur le sujet. Quoi. Sur le fait fallait pas lui dire qu'il dézonnait.
Sur le fait d'être mal aimé, le problème c'est que pour contrebalancer le fait que les médias t'aiment pas parce qu'ils sont fourbes, et je sais, je travaille avec vous, je sais que vous êtes des fourbes, c'est des saloperies. Mais déjà, en général, tu compenses avec l'amour des gens du club dans lequel tu es si tu restes longtemps. Lui, le problème c'est comme il reste pas, donc il n'a aucun attachement ni avec les clubs, ni avec les médias, ni avec personne. C'est ça qui t'isole. Regarde, moi, ouais. Je prends un autre mec, Las Diarra, qui est un joueur super. Il a changé tellement de club qu'en fait, tu l'identifies pas. Il crée pas d'amour, il crée pas d'empathie. Mmh.
C'est peut-être la chose la plus intelligente que tu aies dit.
Ouais, mais c'est pour ça, et je parle là-dessus.
Ouais, il était temps, tu vois.
Et allez, ouais. Je me casse.
Allez, ouais. Salut.
Casse-toi. Au revoir. Merci, allez, la France.
Je pars en Angleterre. Non, mais sur sa relation, alors oui, avec le public, qui passe forcément par le lien avec les médias, qui n'ait pas fait les efforts qu'il fallait faire. Ça, il n'y a pas de problème. Il serait le premier à le reconnaître. En revanche, que ce soit Christophe et Manu, même si Manu l'a connu un peu mieux parce qu'il a vu débarquer aussi à Arsenal.
Il dormait chez lui, il nous a dit.
C'est quelqu'un, exact, c'est quelqu'un d'extrêmement attachant quand on le connaît, Nicolas. Mais il ne donne pas cette façade de son personnage. Il la donne pas, il l'offre pas.
François,
ça,
toi qui maîtrisais la com des Bleus à l'époque, comment tu expliques qu'un type
maîtrisé, alors attention,
dise à l'époque avec Santini, devra s'agenouiller devant moi pour que je revienne.
Alors bah racontons ça, c'est juste avant l'Euro 2004.
Le cas.
Non mais alors François n'était pas en poste à l'époque, ça ne serait sûrement pas passé comme ça. Mais juste,
et plus
pourquoi dit-il ça?
Dans le vestiaire, au bout d'un moment, il a des problèmes avec tous les sélectionneurs.
Il dit ça parce que en fait, avant un match, je crois que Govou se blesse au dernier moment d'un rassemblement. Du coup, on rappelle Anelka qui n'était pas sélectionné à la base. Il le prend hyper mal en disant, en gros, je suis un bouche. trou.
J'ai la déclasse sous les yeux, qu'il s'agenouille devant moi, s'excuse d'abord et après je réfléchirai. Mais voilà. Mec, c'est le sélectionneur. Non, mais il est fou.
Non, mais ça fait suite oui, à la fameuse liste des six. Voilà, exactement.
Ça fait partie du personnage qui a refusé toute sa carrière de faire des courbettes. C'est pas un sport de faire des courbettes, encore que peut-être que pour certains, mais il a toujours refusé ça. Il était dans aucun. Alors Nicolas a beaucoup de qualités et certains défauts. Et parmi ces défauts, c'est de ne jamais, et dans ce milieu, Dieu sait s'il faut savoir, ne jamais accepter le compromis. Voilà.
Oui. Je me souvenais pas de toutes les déclats. Et il ajoute, d'ailleurs, en passant, je remercie Roger Le Maire de ne pas m'avoir sélectionné pour le mondial en Asie, vu la catastrophe qui s'est produite. J'ai au moins évité ça. Et il dit, je suis à Manchester City, j'ai étouffé mon jeu, je me considère comme l'un des meilleurs attaquants du monde, le plus fort restant à mes yeux, Ronaldo.
Ouais. C'est gentil pour Ronaldo, mais qui n'était pas obligé d'être dedans. Il est sympa. Non, ça prouve qu'il est quand même humble.
Mais pour un garçon quand même assez réservé, assez timide et qui s'ouvre pas beaucoup aux autres, il a quand même une haute estime de lui, quand même, de dire des choses comme ça, quand même.
Ouais, complètement.
Bien sûr. Est-ce qu'on peut lier le destin de Nicolas Anelka avec celui d'un garçon comme Karim Benzema, par exemple?
Bah, disons que Benzema.
Par rapport à sa relation au bleu?
Ouais. Il y a plus de longévité, et contrairement à ce que dit Julien, il a plus marqué ses clubs. Ah, ouais, Lyon, le Real,
même. Il a fait deux clubs, quoi.
C'est pas la même chose. Je pense vraiment que, autant Karim, c'est plus compliqué, et puis sur nos antennes, on a souvent parlé par rapport à la double nationalité, le poids de l'Algérie pour Karim, autant pour Nicolas. Je pense que le fait d'avoir fait partie de la benne de 98 avec les Djetou, la Mouchi,
pas traumatisé.
Je pense que ça, si ça avait été Manu et Christophe, ils pourront pas dire parce qu'ils étaient du bon côté de la barrière.
Manu, mais ça s'est joué à rien.
Ah ouais. Ça aurait été un autre joueur autant pétri de talent que Nicolas. Je pense qu'il a 20 ans hein, en 98. Je pense que c'est quelque chose qui vous marque, qui me voit marque à vie parce que c'était une violence inouïe.
Alors allons-y quand même sur Naïsna. D'ailleurs, visiblement la vérité.
Il a 18 ans, je crois, en 98, non?
Ouais,
il a même pas 20 ans.
Exactement, oui. Anelka va donc rétablir sa vérité sur Naïsna dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a une grande série sur Netflix qui va sortir d'ici 2 à 3 semaines.
Très bonne.
Oui,
dedans.
Ah, t'es dedans, d'accord.
Moi, je suis dedans.
Manu aussi.
Ouais, très bien. Prête de l'oseille, les types.
Ah non. Prête de l'oseille. C'était gratuit. Si toi, t'étais pas dedans, c'est que c'était gratuit.
Gratos, Dug.
Voilà.
Ah bon, bon. Oui, oui. Ah, oui,
donc, il n'y a encore pas Robert Pires.
Est-ce qu'il y a Marcel de Sailly ou pas dedans?
Non, du coup. il manque toujours ces deux mecs-là. De toute façon, ils sont intéressants.
Et alors, François, la vérité de Nicolas Anelka ne sera pas celle à laquelle on est habitué depuis toutes ces années sur Naïsna?
Quoi, par rapport, vous avez pas, on va refaire le procès du titre de l'équipe, de la ligne de l'équipe, les gars?
Non, mais tu nous avais dit que c'était, le titre était, même si c'était pas au mot près, l'idée, quoi.
Peut-être de place de la virgule ou des mots, je vous avais.
Alors pourquoi il veut rétablir sa vérité?
Il veut mettre la virgule là où
il avait perdu. Non, mais sa vérité, c'est peut-être qu'il a accepté, un peu tard, mais il a accepté un peu plus de données de sa vie un peu privée, ou en tout cas de se raconter à travers lui ce qu'il a pu traverser.
Ou peut-être d'admettre qu'il a fait une connerie.
Pardon ?
Ou peut-être d'admettre qu'il a fait une connerie.
Ah, mais certainement, mais attends, encore une fois, Nicolas est un mec qui va pas te la faire à l'envers. En 2010, je reste en contact avec lui. Quelques semaines après notre tour d'Afrique du Sud, il m'envoie un SMS pour s'excuser de ce qui s'était passé le 20 juin, alors qu'il était déjà rentré à Londres et dans les jours qui ont suivi, alors que Nicolas n'a pas participé, lui, à l'infamie du lendemain. Mais il avait été touché, il n'était pas un agent provocateur de cette grève, et il s'excusait.
Ah mais François, il n'est pas l'agent provocateur, il est l'agent déclenchant.
Il est déclenchant, mais il n'était pas obligé d'aller si loin non plus.
C'est marrant parce qu'il y a deux mecs de la même génération dont on parle tout le temps et on les lit jamais. C'est-à-dire que moi, par exemple, personne ne nous parle du rapport entre Henri et Anelka.
C'est très fort. Très fort.
Oui, mais ce qui est ouf, c'est que ça ne sortait jamais. Ça n'est jamais dans les débats. Il y avait soit Henri d'un côté, soit Anelka qui vient un truc de l'autre, mais ces mecs-là qui sont de la même génération, moi, j'ai jamais senti de lien, en tout cas, dans ce qu'on nous racontait.
Ah si, non, mais il y a un lien très fort avec eux parce qu'ils sont de la même génération. Ils ont été, je pense qu'ils ont été à Clairefontaine ensemble. Et moi, pour avoir assisté à cette scène, la dernière personne qui raccompagne Nicolas quand il est exclu et qu'il quitte le Pezzola Hotel, c'est Thierry Henry. Et j'en racontais cette scène parce que je les ai accompagnés vraiment jusqu'au bout. Après, ils sont partis tous les deux dans la nuit jusqu'à ce que le chauffeur de Nicolas le récupère pour l'amener à l'aéroport. Mais quand tu vois ces deux mecs côte à côte, tu dis, mais putain, mais on tenait une paire d'attaquants.
Ah bah oui.
Alors un peu le même profil.
Sûr.
Mais il y avait tout hein, là-dedans. Il y avait tout. La vitesse, la technique, la puissance.
Bien sûr.
Julien l'a raccompagné pour être sûr qu'il revenait pas, peut-être, non? Moi, Henri, je me méfie toujours. C'est comme quand tu dis, quand il était avec l'Irlandais après France-Irlande.
Chardune.
Ouais, ou quand il était avec Trezeguet.
Julien Laurent, t'en as déjà parlé avec lui? Tu l'as interviewé depuis 2010?
C'est produit en.
Ouais, plein de fois. Bah, son retour à Chelsea. Moi j'étais avec François aussi en Afrique du Sud pour le Parisien d'ailleurs, et avec Gilbert, mais après à son retour à Chelsea, effectivement, je me rappelle très bien avoir couvert son premier match de retour, la saison 2010-2011, et c'est très clair dans sa tête. De toute façon, c'est terminé, l'équipe de France, de toute façon, personne m'a jamais compris. C'était un petit peu ça l'idée, c'était pas simplement l'embrouille avec Domenech et les insultes, et même Nicolas disait toujours, moi je lui ai jamais dit ça en plus, donc en plus il avait la rage contre l'équipe et contre les journalistes en général, mais c'était vraiment ce sentiment d'incompréhension, et comme l'a très bien dit tout à l'heure François aussi, le but en Irlande, pour lui c'est la légitimité de sa place en équipe de France, et il pense que les gens l'ont jamais compris et que finalement il a jamais vraiment été accepté à l'instar d'autres, mais à l'encontre surtout de Thierry Henry par exemple, parce qu'il y avait, je pense quand même si c'était très proche, il y avait une sorte de jalousie un petit peu entre les deux, et Thierry Henry pour moi a pas été non plus très très correct sur cette Coupe du Monde 2010, et je pense que Nico a beaucoup souffert de ce manque de légitimité.
Pourquoi?
Après son non, but contre l'Irlande et le fait que les Français l'ont pas très bien compris.
Non, Thierry en Afrique du Sud, il sait qu'il va jouer les seconds rôles, et ça il le vit très très mal. Après, non, je suis pas d'accord avec toi, Julien, par rapport à sa relation.
C'est
avec
pour ça.
Voilà.
C'est
bon,
pour
évidemment,
ça.
Thierry avec son ego de champion, il faisait de la place à personne, hein, pas même à ses amis. Mais en dehors de l'aspect de la compétition. Humainement, c'était quelqu'un, oui, qui se sentait très proche de Nicolas, et inversement, ils avaient les mêmes codes. Mais je veux dire, c'était même Thierry qui m'avait mis en garde à un moment donné par rapport à Nicolas, enfin, mettre en garde, entre guillemets, en me disant, bon, les footballeurs, parfois, quand c'est dans notre intérêt, on accepte pas mal de choses. En revanche, il y en a un, il est comme un fauve, c'est Nicolas, il faut pas la lui faire à l'envers. Et c'est ce qui va se passer quelque part aussi avec Raymond Domenech, puisque, oui. Nicolas m'apprend le jour de la sortie de la une de l'équipe, parce que très courageusement, le staff m'a envoyé aller discuter avec Nicolas pour savoir s'il avait présenté ses excuses. On n'avait rien trouvé de mieux qu'attaché de presse pour aller lui parler.
Ouais,
et moi, je passe beaucoup de temps avec lui. Il me raconte qu'au mois de mars, je crois, ou au mois d'avril, Raymond va le voir à Londres et il lui demande de jouer en pointe, mais vraiment en pointe.
Ouais.
Ce à quoi Nico dit, c'est un peu plus le profil de David Trezeguet. C'est David qu'il faut rappeler, c'est pas moi. Parce que bon, bah, moi, on l'a dit dans l'émission, je dézone, quoi. C'est pas mon jeu.
Oui.
Mais il va quand même le maintenir parce qu'il est en forme, que c'est un joueur devenu 4, comme tu l'as dit, Jean-Louis. Et puis, il y a aussi quelque chose qui va
jouer. Alors, François, il va falloir qu'on arrive. On peut pas refaire tout le bouquin, là. Donc, il va falloir qu'on arrive au bout.
Non, mais c'est pas le bouquin, mais c'est un élément d'information. Je suis factuel, là.
Bien sûr, mais vas-y, parce qu'on arrive au bout du
chrono. Non, mais voilà, c'est que Nicolas, il va quand même vouloir la jouer, cette Coupe du Monde.
Oui.
Même si c'est pas son rôle de rester en pointe. Mais il va vouloir, bon, dire, bon, ok, ben, on va voir. Et puis, bon,
On l'a vu, malheureusement. François, merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'entendre.
Salut, François.
À bientôt.
Bonne soirée.
François Manardeau, ancien chef de presse des Bleus.
On le rappellera quand on fera Gourcuff.
Ah. Tu veux qu'on fasse la carrière de Gourcuff?
Ben, pourquoi pas?
Avec plaisir.
Moi, c'est Jérémy Toulalon, j'aimerais bien entendre.
Eh ben, on aimerait bien qu'il nous réponde aussi. Allez, à tout de suite pour le blind test. J'ai toujours pas compris pourquoi ça le mettait dans une rage folle qu'on lui dise qu'il a dézoné. Est-ce que peut-être là les anciens joueurs vous pouvez m'aiguiller? Ça veut dire que il a l'impression que les gens en face connaissent rien au foot, connaissent rien à son jeu,
style. Son jeu a vachement évolué de façon radicale. C'est-à-dire que les premières années c'était une flèche qui prenait toujours la profondeur derrière les défenseurs. Il était intenable, insaisissable. Il jouait en percussion en permanence. Et au fil des années, son jeu a évolué. Il est devenu beaucoup plus statique. Il dézonnait à reculons. À chaque fois, il faisait entre le 9,5, des fois un meneur de jeu. Il s'insérait des fois avec le milieu de terrain. On a vu peu de pointes.
Mais moi, je ne trouvais pas bon dans ce registre-là. Moi
non plus. Je trouve qu'il ralentissait le jeu. Il jouait plus sur l'instinct, en fait.
Ah bah oui. Ah bah, moi, j'ai jamais compris pourquoi il a voulu comme ça dézoner. Alors, ça lui permettait peut-être de toucher un petit peu plus de ballons, certainement. Mais, il a pas du tout les qualités de Benzema. Même s'il voulait peut-être jouer dans le registre de Benzema.
Oui, je crois que c'est
mais
ça.
Mais c'est pas Benzema du tout, quoi. Il est beaucoup moins talentueux.
Ça t'est jamais arrivé, ça, du gars, quand on te mettait neuf, que tu décrochais un peu pour toucher le plus le ballon.
Lui, c'est son.
Oui, ça m'est arrivé, mais ça m'a. Oui, mais au bout d'un moment, ça m'a certainement desservi aussi de vouloir trop toucher le ballon par moment, de vouloir être un coup à droite, un coup à gauche. Quand tu veux être partout, t'es souvent nulle part. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi. Ouais. Donc oui, au bout d'un moment, il faut se concentrer. T'as un registre. T'es là pour apporter quelque chose à ton équipe en fonction du poste que tu occupes. C'est comme si Manu, il joue milieu de terrain et il doit couvrir l'un et l'autre et puis il part toujours en pointe. Au bout d'un moment, t'as un poste à occuper. Chacun est à sa place, quoi. C'est comme ouais. ça. Tu joues pas comme tu veux. C'est pas
d'ailleurs,
comme ça que ça fonctionne.
Si vous avez rien à faire à un moment, refaites-vous les résumés de match de 2010. C'est vraiment cataclysmique. Hein. Le match, les matchs
le
de Nelka.
Le dernier.
Ah, le Mexique, oui, mais même le premier aussi, c'est dramatique. Hein. Effectivement, son dézonage est terrible. Il perd tous les ballons, il essaie d'en faire.
Non, mais
trop,
il aurait voulu qu'on change tout. C'est-à-dire qu'il aurait voulu que lui dézone, qu'un autre prenne sa place, qu'il y ait plus de mouvement. Il voulait que tout s'organise autour de lui et en fonction de son décrochage.
Il marche sur les pieds de Gourcuff tout le temps.
Ah, tu peux le faire si tu fais la diff à chaque fois que tu touches le ballon.
Voilà, exactement.
Tu peux le faire si t'es Messi, Maradona ou Cristiano. C'est tout. Voilà.
Exactement. Bravo Gilbert, quel esprit de synthèse.
RMC, 18h-20h. Tim Duga, Jean-Louis Tour, Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h52, Tim Duga continue. Mon Jean-Louis, c'est le moment de faire les équipes pour le blind test.
Exactement, alors équipe Manu Petit, Christophe Dugarry, Julien Laurence qui est toujours avec nous. Face à l'équipe Julien Cazard, Gilbert Bribois.
Oh, magnifique. D'accord. Donc on est à 3 contre 2 nous.
Bah oui, bah,
bon, c'est l'équipe, on va dire, j'allais dire première ligue, c'est au concert que Birmingham. C'est...
Bah bien sûr. Et il a marqué Birmingham. Je pense que c'est peut-être le club que t'as le plus marqué, du gars. Bon, après Bordeaux, peut-être.
Ouais, après Bordeaux, ouais, peut-être.
Quand même.
Peut-être,
ouais.
Il les a sauvés de la relégation.
Ouais. Bien
Merci,
sûr.
Merci, Julien. Putain.
Alexandre est là au 32-16. Salut, Alexandre.
Il a sauvé Marseille de la relégation.
Salut la team.
Tu veux faire équipe avec qui, Alexandre?
Salut, Alexandre.
Salut.
Tu veux faire équipe avec qui?
Bah avec du gars.
Allez,
bien, Alex.
4 contre 2 maintenant. Allez, encore mieux.
Pas non, mais il y a Miguel qui est là. Miguel, bonsoir. Tu es avec Gilbert et Julien.
Salut les jeunes, ça va?
Ça va et
ça
toi,
va, et toi?
Apparemment, t'es en forme.
Bah écoute, ça va bien, impeccable. Hein.
Bon, garde du jus, ça va être important ce blind test là. Allez, c'est parti.
Allez, Miguel est avec nous.
Ouais, bah, bien sûr.
Très bien.
Miguel. Ah bah quand même.
T'es bon sur la musique, Miguel, parce que nous on est un peu à la ramasse. Hein.
Ouais, mais vous êtes sur le foot.
Ça dépend, hein.
On y va, première chanson, une chanson, cherche l'interprète et après une question foot.
YouTube, non. Texas, non.
Texas, non.
Sorry.
Ouais. Comment s'appelle ça là?
On dirait comme Fourbis qui entonne les chansons. Ça met plus fort ton haut-parleur.
C'est Larasta là, comment ça s'appelle?
Non.
Chapman, Tracy Chapman. Chapman, Manchester United.
Non. Bravo Julien. 1-0, sorti de ce titre Baby Can I Hold You en 88, figurez-vous. Alors nous cherchons un joueur qui est né en 88, formé à l'Independiente en Argentine.
Très
international argentin.
Agüero.
Donc,
Di Maria.
Agüero, Julien.
Di Maria.
Il est là, Julien.
Julien Cazard vous marche dessus pour l'instant.
Oh, la chance. 2-0.
Ah, je Julien dézone Laurent, un peu.
Je reconnais que je dézone.
Ça fait plaisir d'entendre que Julien Laurent, c'est là. Parce que j'avais un doute. Ça fait donc 2-0.
C'est bien, c'est vraiment des petites variantes.
Ah bah on varie.
Ça, c'est extraordinaire.
Nouvelle chanson.
Police.
Non. C'est un nom d'Abi.
D'Abi?
Oui.
Abu Dhabi.
Non, un Abi qu'on met. Enfin, pas toi, du gars, tu t'en mets pas
Dhabi,
trop.
Un Dhabi, jean.
Bien tenté.
Pullover.
Chemise. Pull.
Genre, ça me dit un truc.
Anorak.
Sweet. Anorak.
Côte.
Non. The Chaussettes, essayez peut-être.
Socks.
Non, toujours pas. C'est pas, rien à voir.
Trouser.
Bon, c'était les Cardigans.
Ah oui, ouais. Les Cardigans. Ouais. On n'en avait plus trop, les Cardigans.
On n'en avait plus trop, mais quand même. Comment, Miguel?
Vous n'avez pas des chansons plus connues, quand même, non?
Ou plus jeunes?
J'ai pas fait la programmation. Je vous le dis, je me dédouane tout de suite.
Ouais,
alors,
ça.
Citez-nous, ça va aller vite, un joueur connu pour ses excès de vitesse.
Rotten.
L'autoroute par
Rotten. On l'a dit en même temps, mais c'est la même équipe.
Exactement.
C'est bah ouais, après, c'est nous, bah, excès, déjà deux vitesses direct, c'est Rotten.
Il y avait Milan Baros, il y avait Mbaye Niang également.
Milan Baros,
il
y a Karim aussi. Benzema.
Karim
oui, mais Milan Baros qui est numéro 1 en Europe. Et deuxième, oui. Jérôme Rotten, deuxième. Hein.
Ah, c'est comme en 2004.
Jérôme, il cumule avec le coupe de cheveux dégueulasse.
Ouais, 3-0 pour l'équipe de la
Fédération. Aérodynamique, s'il est en décapotable, il est plus vite.
Nouvelle chanson.
Ah,
Muse.
Non.
Muse.
Robbie Williams.
Non, c'est le nom d'un joueur de foot très connu en Angleterre.
Best.
Milieu de terrain.
Keane,
c'est Julien.
Rappelle le score.
4-0. Tiens, question sur Roy Keane, quel est son dernier club?
Leeds. United.
Celtic.
Oui, Celtic, Julien.
Ah, ça va, il répond sur Roy Keane, c'est pas mal.
Bravo,
Julien. Tu sais que tu devrais répondre
sur Julien. Ah, tu fais le malin, Cazard. Tu fais le malin parce que ça y est, t'as eu deux bonnes réponses.
Dernière chanson, on y va. T'es français, je vous le dis. Ah, c'est pas facile. Non, si. Ça va aller vite parce que son nom, c'est une seule lettre. L.
Non. M.
Oui, M. Du gars, bien joué. Non, t'as dit L, toi.
T'as pas compris, je dis M. Avec le chanteur L.
C'est quand même assez connu, ouais. Il y avait les L5, mais bon, c'était pas ça. M. Mathieu Chédid, bien sûr. Question donc sur Jérémy Mathieu. Où est-il formé?
Sochaux.
Toulouse.
Non, Sochaux.
Sochaux.
C'est Sochaux, bien sûr, Julien, mais
t'avais dit non.
C'était marrant de te voir douter comme ça.
T'as dit
victoire de l'équipe, donc, Bribois, Cazard.
J'ai dit, j'ai jamais perdu.
Miguel, on t'envoie un t-shirt.
Là, je t'ai repédé quand même.
Bravo, Gilbert.
J'ai rapporté deux points là-haut.
Deux, t'es sûr?
Et Manu, bravo, Manu, il est parti, Manu?
Ouais, je suis pas là.
Manu, en tout cas, il y avait l'intention à chaque fois.
Qu'est-ce qu'il a fait, Manu?
Il était pas loin de trouver à chaque fois.
Chaque fois, je suis à deux doigts de peser.
Elle, franchement, à une lettre près, il était là, quoi. Bon, merci tout le monde. Julien, Gilbert, on vous retrouve ce soir dans l'after à 22h. Bien sûr, Manu, merci. Julien, merci également en Angleterre. Et puis Duga, à demain, 18h pour Team Duga. Ciao.
RMC, 18h-20h, Team Duga.